Mais c'est parfait. Bienvenue, Craig.
Je propose qu'on commence. Hein. Alcool va. Ah, alcool, moi. Alcool va
Alcool.
Pouvoir commencer. C'est les dérives belges.
Vas-tu nous présenter, Alcool?
Eh bien, je vais vous présenter. Donc, j'ai lu Impossible Landscapes une campagne pour Delta Green, figurez-vous. Juste avant de commencer, il y avait un truc que je voulais dire. Je voulais faire un peu de SAV pour le truc que j'ai présenté la dernière fois, c'était The Zone RPG. Bon, j'ai toujours pas pu jouer. Apparemment, il y avait beaucoup de gens que ça intéresse le samedi matin. Non, j'ai reçu la boîte entre temps. Donc, j'ai reçu la boîte et c'est vrai que je whingeais un petit peu sur le fait que ça coûtait assez cher par rapport aux autres jeux boîtes. Mais c'est vrai, quand j'ai reçu la boîte, elle est vraiment grosse. Il y a pas mal de matos. Il y a des trucs un peu imprimés holographiques qui se voient dans le noir. Bon, ça manque un peu d'image. Mais il y a quand même vachement, vachement de matos, donc bon, ça mitige un petit peu le truc. Mais j'aurais bien fait aussi du SAV sur les encagés, mais je ne veux pas que ça tourne au débat, donc je ne vais pas le faire. Et je vais rester donc sur Impossible Landscapes. Alors, j'ai pris plein de notes, j'espère que ça sera pas trop décousu comme à chaque fois que je me réécoute. Je vais essayer de raconter ça à poser et de passer un peu par tous les trucs que j'ai notés. Alors, juste avant que je commence, par contre, s'il y a des gens qui écoutent, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui écoutent, mais si jamais vous voulez jouer à Impossible Landscape, je suis obligé de tout spoiler là, dans tous les sens, parce que pour expliquer en fait les quelques points, les quelques avis, enfin les avis de la vie critique que j'ai dessus, je suis obligé de passer à travers tout. Alors, pourquoi avoir choisi ce livre? Bon, bah donc déjà, je suis un peu un gros fan de Delta Green, voilà, ça se sait. Du coup, je pouvais pas trop, j'étais vraiment curieux, je pouvais pas trop faire l'impasse pour ce truc-là. Alors, quand même rappel, pour les gens qui connaîtraient pas, donc Delta Green, c'est un contemporain pour l'appel de Cthulhu, où on joue des agents secrets dans une organisation qui lutte contre le surnaturel. Dans une ambiance un peu conspirationniste, très noire, c'est un peu l'appel de Cthulhu en mode nightmare, quoi. Donc, pourquoi celui-là? C'est parce qu'en fait, ça devait être la campagne de Delta Green. Ça fait 10 ans que le jeu était rebooté, et ça fait genre 10 ans qu'ils en parlent, et ils sont toujours en train de livrer, d'ailleurs, les trucs de ce crowdfunding-là. Et celui-là, c'était censé être la campagne qui va avec. Donc, j'étais super chaud, d'autant plus que c'est autour du roi en jaune, donc un truc qui sort un petit peu des poncifs ordinaires lovecraftiens. En plus, je me suis très longtemps retenu en fait de lire parce que je me dis ah, c'est pas possible, je vais essayer de la jouer comme joueur, mais bon, c'est un peu compliqué. En plus, j'ai raté deux campagnes qui se faisaient sur le serveur Discord australien où je suis, donc je risque pas trop d'en voir, donc j'ai enfin fini de décider de le lire. Il était là, il traînait sur ma bibliothèque depuis un bon moment. Et donc, description des éléments. Alors, c'est un gros bouquin. C'est un gros bouquin de... attendez, je le prends. 368 pages, je crois qu'il avait noté sur le truc. Donc, gros bouquin de 368 pages. Qui est sorti en 2021, donc de chez Arc Dream. C'est hardcover, c'est du lourd, très beau papier, très beau grammage. Ça coûte assez cher, ça coûte 65$. En dur, 33$ en PDF. Alors c'est aussi un truc un peu à tiroir. Il y a aussi un truc en plus qui s'appelle Static Protocol, qui est une sorte de... comment expliquer ça? Entre le glossaire et la timeline qui est vendu séparément, et lui vendu pour pareil, $20 US en dur et 5 en PDF. Alors je crois que normalement il était filé en fait avec si on l'achète, je crois, chez au moins sur la boutique Arc Dream, où qu'on avait backé, on l'a, mais sinon, faut aussi l'acheter. Et en plus, si on n'a pas acheté la version PDF, faut en plus acheter le recueil en fait d'aides de jeu. Donc mine de rien, ça fait quand même un projet qui est assez cher hein, si on ajoute tout. Donc c'est 65 $ USD plus 20 $ USD. Si en plus on va se le faire livrer à l'autre bout du monde comme moi, les Arc Dream ils livrent que avec la poste américaine, donc 70 $, ça fait quand même presque 150 $ pour la campagne. Merci. Donc ouais, un peu cher, sinon bon, sur Drive-Thru, un PDF, ça reste un peu plus abordable. C'est donc écrit en anglais, c'est de l'anglais plutôt littéraire, enfin plutôt littéraire. Même moi j'ai dû regarder, de l'habitude de t'entendre, j'ai dû regarder un ou deux mots. Le style aussi est un petit peu des fois un peu travaillé, au point des fois un petit peu. Bon, j'y reviendrai plus tard, mais un petit peu trop à mon goût. Et a priori, je pense que ça va être traduit en français, parce que j'ai vu que sur Rollis TV, je crois qu'ils annonçaient que apparemment Delta Green RPG, là, la version indépendante de Delta Green, et donc cette campagne risque d'être traduite enfin, vont être traduits en français apparemment. Donc, pour une fois, je recommande pas ça. Enfin, c'est pas que pour des anglophones. Les francophones aussi vont devoir pouvoir y avoir accès. Alors sinon dans le bouquin lui-même, donc pareil, très très beaux ouvrages dans la lignée du truc, c'est sur deux colonnes, très très lisible, du beau papier avec du beau grammage. Un truc qui est assez chouette, c'est que donc Detwiller, l'auteur, il est aussi c'est aussi lui qui s'occupe de faire tout ce qui est les illustrations. Donc c'est assez chouette parce que les illustrations représentent vraiment en fait la vision la vision de l'auteur, que c'est pas. Ça pour ça c'est assez chouette. Ensuite, tout ce qui est en fait la mise en page est aussi très très chouette. Genre, au fur et à mesure, ça se dégrade, parce que donc le principe c'est donc une campagne sur le roi en jaune. Donc je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, c'est un bouquin de Chambers, donc qui se réfère à une pièce qui est la pièce du roi en jaune, et tous les gens qui la lisent se rendent fous. Donc il y a cette espèce de parallèle qui est fait un petit peu avec le livre et en fait cette pièce imaginaire fictive du roi en jaune. Et donc le bouquin, au fur et à mesure on avance devant, en fait, ça se déstructure et c'est censé un petit peu représenter cette folie au sens très littéraire et romanesque du livre qui se dégrade. Il y a aussi pas mal de tentatives de casser le quatrième mur qui sont plus ou moins réussies, quoi, pour rester dans cet esprit métaphore en fait du livre Le Roi en Jaune. Donc il y a quelques petites notes en bas de page un peu cryptiques qui rappellent la Maison des Feuilles. Il y a des notes un peu manuscrites, pareil, toujours un peu cryptiques, et au fur et à mesure qu'on va passer dans le livre, on va se rendre compte que ah, mais en fait c'est des protagonistes de l'histoire en fait qui parlent en fait au lecteur à travers donc le MJ, la personne qui lit le bouquin à travers des notes. Il y a des petits encarts et tout là aussi, un peu comme dans tous les bouquins de jeux de rôle, parce que dans plusieurs dans la campagne, bon, il y a le fameux signe jaune qui est présenté, et il y a écrit bon bah voilà, see the yellow sign on page 344 for details. Et effectivement, tu vas à la page 347, on a partout des renvois, et donc c'est pareil, il y a une sorte de bouclage pour te faire regarder le signe en jaune, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu, une fois qu'on a vu le signe en jaune, on veut faire en sorte que tous les autres le voient, donc il y a ce côté un petit peu là aussi, quatrième mur, on essaie de te forcer à voir le signe en jaune partout dans le bouquin. Bon, après, il y a pas mal d'autres trucs. L'auteur proposera aussi pas mal. Bon, ça, c'est pas tant dans la présentation, mais toujours cette tentative d'essayer de casser le quatrième mur, plus ou moins réussi, des anagrammes un peu mouifs, des injonctions dans la campagne, à faire un petit peu de manip, enregistrer les joueurs un peu à leur insu, leur envoyer des SMS IRL, ce genre de trucs. Où, bon, là, j'y reviendrai, mais c'est des trucs où je suis un peu moins accroché. Donc, qui est la cible du produit? Alors, donc ouais, les bons gros fans de Delta Green pour leurs collègues, et peut-être des MJ assez fous, donc clin d'œil, hein, wink wink, pour vouloir se lancer et la faire jouer, parce que Après l'avoir lu, faire jouer ce truc-là, c'est pas gagné. Je suis un peu passé par tous les, vraiment toutes les émotions en le lisant, en disant mais pour qui il se prend, putain mais c'est de la merde, ah ouais c'est pas mal, ouais, c'est, je suis vraiment passé par toutes les émotions et beaucoup, j'ai eu beaucoup de perplexité, enfin j'étais très perplexe, j'ai été regardé quand même pas mal au fur et à mesure, je regardais ce que les gens en disaient pour ça, mais il y a que moi là ou qu'est-ce qu'en pensent les autres, c'est vraiment jouable ça, etc. Donc ouais, la cible du produit, à la base je pense que c'est des gens hein, qui aiment bien bah, l'auteur et ce jeu-là. Après, est-ce qu'ils pourront l'exploiter, c'est une autre question. Alors, ce que vous pensiez y trouver. Alors, avec un titre un peu évocateur comme Impossible Landscape, Static Protocol, Ferris Fractal, ce genre de truc, je m'attendais à donc ouais, une histoire un peu sur le roi en jaune et vraiment une campagne de Delta Green avec les codes du genre, hein, donc les trucs un peu conspi, les organismes publics américains, tout ce qui est tout ce genre de trucs et une petite couche un peu plus abstraite ou métaphysique au-delà du pseudo-scientifique qu'il y a d'habitude dans Delta Green. Peut-être un truc que je pourrais faire jouer à des joueurs qui connaissent le genre ou des joueurs qui connaissent pas du tout. Et ce que vous y avez trouvé, eh ben j'ai pas trouvé vraiment ça en fait. J'étais un peu, ça m'a laissé le truc m'a laissé un peu perplexe. Je vais vous faire une petite présentation un peu transverse du contenu du bouquin et je vais essayer de quand même de vous expliquer mon ressenti. Peut-être ça tu auras mon ressenti au fur et à mesure dont je l'ai lu. Je vais faire ça en linéaire. Donc ça commence avec une préambule avec un préface de une préface de John Scott Tynes qui est donc un des compagnons de Dead Wheeler et ensuite il y a une histoire de ensuite dès la page 9 on tombe sur la vision de l'auteur de ce qu'est la campagne. Alors je vais essayer de vous retrouver. Alors c'est en anglais, je l'ai pas traduit, mais quand j'ai lu ce truc là je fais putain, mais j'ai trouvé ça. J'étais très perplexe parce que j'ai trouvé ça super arty, mais limite condescendant, quoi. Donc, c'est page 9, vous avez un truc, c'est. Donc, this book has teeth, enfin, ce livre a des dents, mais vous devez le manger, le mâcher, l'avaler, et faire comme si c'était. Un acte, c'est facile. Et après, il y a la danse. Enfin, c'est que des trucs extrêmement arty, un peu condescendants, et c'est sa vision, en fait, de la campagne. Déjà là, j'étais un peu. Ensuite, après, il y a une intro à la campagne qui explique un petit peu comment il y a, enfin, déjà ce que va être le scénario. Donc, c'est un scénario donc sur, comme je disais. Le roi en jaune, le livre de Chambers. Donc c'est une folie qui est très littéraire, qui est pas du tout, qui est un peu à l'opposé d'ailleurs justement de ce qui est décrit dans Delta Green où c'est très gritty, très un côté un peu très comment dire, un peu authentique. Là on est vraiment de retour dans un truc très 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 linéaire et ensuite ça va être donc l'histoire du cette histoire ça va tourner autour du roi en jaune qui est une sorte de corruption en fait de la réalité. Donc la réalité se distord autour du roi en jaune et tous les gens qui le touchent en fait sont plus ou moins corrompus et les joueurs vont se retrouver happés là-dedans et donc spoiler jusqu'à ce que la fin en fait ils aient presque l'impression que en fait, la réalité n'existe pas, la seule chose qui existe en vrai, c'est la pièce, et leur réalité n'est qu'une illusion. Bref, cette vision de la folie, quoi. Le style un peu de fiction qu'on va avoir, c'est donc bah, le rang jaune, mais ce qui est aussi pas mal cité, c'est des trucs comme Twin Peaks, The Shining, moi je dirais peut-être aussi le Festin nu, ces trucs... un peu bizarre, c'est d'ailleurs ce qui sous-entend, c'est que là, ça va pas être de l'horreur, comme d'habitude, Lovecraftien, ça va être de l'horreur surréelle. Et là aussi, c'est aussi un truc où il y a peut-être un peu un point de divergence avec ce que peuvent s'attendre des joueurs qui joueraient d'habitude à Delta Green. Je vais essayer de vous expliquer ou explique ce que c'est la différence entre une horreur normale et une horreur horrifique. Donc, c'est horrifique de voir un ami mort se remettre à bouger comme s'il était Repartir en vie un peu comme un zombie, c'est l'horreur est sur elle quand cet ami s'assoit à la table du déjeuner et que tout le monde fait comme si c'était normal. C'est, bon, ça, à la rigueur, c'est encore compréhensible, mais... par exemple, c'est horrifique de se faire tirer dessus, mais l'horreur est sur elle quand vous réalisez que malgré la douleur de la blessure, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas en train de saigner, mais que c'est du papier crépon qui s'échappe de vous comme si c'était du faux sang comme vous auriez dans une pièce de théâtre. Donc déjà, c'est ce genre de truc qu'on va faire, ce qui déjà peut un petit peu diverger du canon habituel horrifique et qui peut en surprendre plus d'un. Il y aura aussi quelques règles pour la corruption, puisque tous les joueurs au fur et à mesure donc vont se faire un petit peu corrompre par cette sorte de distorsion de la réalité qui est le roi en jeu, donc vous avez quelques petites règles en plus spécialement pour ça. Et enfin, le truc qui est le plus important à mon goût, mais qui malheureusement tient sur deux pages, c'est des conseils sur le type de scène en fait qu'on va faire, parce que il explique un petit peu qu'il va falloir un peu ancrer le truc dans le réel et avoir une sorte de parcours elliptique autour de l'horreur, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu dans tout ce qui est la réalité, ça devient un petit peu bizarre, puis vous allez complètement partir, ça va être un petit peu suggéré, vous allez avoir une sorte de réalisation, puis il va falloir revenir. Or, dans tout le reste du bouquin, 90% du truc, c'est que du surréel. Donc, tout ce qui est les conseils en fait de maîtrise pour avoir cette espèce d'effet, vous voyez dans Twin Peaks, tout est un peu ancré dans le réel, et ce qui marque, c'est ces moments où genre le surréel en fait dépasse de la frontière et c'est pas très compréhensible, ça repart là dans le bouquin et c'est 90% de 80% de surréel. Donc ça a été aussi un des petits soucis que j'ai eu. Bref, en tout cas, très intéressant. Donc après ça, donc on vous explique petites informations sur la pièce, sur ce qu'elle rend le roi en jaune, une historique sur les différents arcs. Alors c'est hyper cryptique, il y a plein d'arcs qui, une fois de plus, malheureusement c'est un des autres problèmes que je vais avoir sur ce livre. Déjà à lire, c'est très cryptique. Si on prend tous les arcs un petit peu à part entière, bon, ils sont à peu près normaux, mais l'auteur les a, du fait de cette espèce de distorsion de la réalité, de l'espace, etc. Il a un peu tout emberlificoté comme un plat de spaghettis, et genre, il a rajouté des éléments un petit peu pour faire joli, pour faire arty, mais tout est super cryptique. Donc tu peux le lire, mais toi déjà en tant que MJ, tu vas avoir du mal à suivre un peu tout ce qui se passe, donc j'ose même pas imaginer en fait pour des joueurs en fait comment ça va se passer. Ils vont peut-être juste toucher quelques trucs qui émergent sans vraiment comprendre, et peut-être s'arrêter juste sur le côté un petit peu arty de la description que fait l'auteur. Bon, bref, je continue. Donc après, dans le bouquin, il y a une divisé en quatre gros scénarios, plus des petits interstices, une sorte de lieux ou de trucs un peu autour. Donc le premier, c'est The Night Floors. Donc The Night Floors, c'est la refonte d'un scénar des années 90 qui est dans un des premiers bouquins de Delta Green. En gros, vous devez aller... les agents sont appelés pour aller enquêter sur une disparition inquiétante dans une sorte de colloque d'appart d'artistes. Et ils vont aller là-bas et en fait, ils vont se rendre compte que la journée tout à l'heure normale, mais la nuit, en fait, l'immeuble est beaucoup plus grand, les habitants sont complètement différents et tout commence un petit peu à partir en couille. La réalité est plus vraiment ça. L'idée, c'est qu'en fait, donc la personne qui recherche Abby a trouvé en fait quelque part un exemplaire de ce fameux bouquin Le Roi en jaune. Et donc elle a commencé à tout corrompre autour d'elle, et donc tout ce building est en train de partir en sucette. Alors c'est un scénario qui est un petit peu ouvert. L'idée en fait, c'est que les joueurs pourront jamais vraiment retrouver Abby. L'histoire c'est juste de les faire partir dans une histoire de délire un petit peu complètement surréel, et que en fait, en gros, ça démarre la campagne, parce qu'en fait ils sont corrompus par le roi en jaune. Après, vous avez donc un petit intermède, c'est un lieu, c'est The Bookshop, l'endroit où le manuscrit du Rangeau l'a trouvé. Donc lui aussi, cette boutique ici est complètement un petit peu délirante, la réalité est complètement bizarre, il y a des gens complètement... Enfin, des trucs aberrants, des manuscrits, enfin des livres qui sont partout, on peut creuser dans le livre, c'est un côté très presque onirique. C'est un lieu où on n'ira pas plus avant ou après dans la campagne. Ensuite, il y a un deuxième scénario qui est Volume of Secret Faces. Donc, c'est 20 ans plus tard. Donc, les agents de Delta Green sont rappelés après avoir peut-être fait quelque chose pour aller explorer sur une histoire, enfin sur un asile d'aliénés où des agents en fait ont disparu. Et ils vont arriver là-bas et ah, rebelote, en fait c'est la même chose parce qu'en fait ils savent pas que en fait le gars qui les a appelés, en fait c'est le méchant, c'est un méchant qui a été corrompu par l'Orange Jaune, bon, et qui les envoie là-bas. Donc bon, en fait la structure est vraiment simple, mais ils rajoutent une couche par-dessus, c'est qu'en fait les joueurs, même si c'est 20 ans après, en fait, ils sont jamais vraiment sortis des Night Floors, ils sont toujours en fait dans cette espèce de cauchemar, ils s'en sont juste pas rendus compte, ils ont l'impression que 20 ans s'est passé, peut-être que 20 ans s'est passé dans la réalité, mais en fait, dans cette histoire du truc du rang jaune, tout continue. Ils s'en sont jamais sortis. Après, vous avez une petite interlude, donc c'est The Missing Room, c'est encore un lieu un peu chelou. Peut-être que l'auteur a vu The Lost Room, c'est une pièce super bizarre, donc des agents de Delta Green qui avaient disparu avant, qui travaillaient sur le truc, étaient là. Donc c'est pareil, ça peut faire des points de connexion à plein d'autres endroits de la campagne, une fois de plus, où les joueurs ont un peu du mal à... Enfin, peut-être qu'il leur arriverait quelque chose, mais ils auront du mal à comprendre pourquoi ou comment ça va les emmener, je pense. Après, vous avez un troisième scénario, donc là, on rentre vraiment dans ce que... un truc railroad, les gens sympas pourraient appeler ça d'entonnoir, mais là, on rentre vraiment dans un truc, là, ça va aller tout droit, donc like a map made of skin, bon, pourquoi le nom? On ne sait pas, ça fait joli, en tout cas. Donc là, la réalité commence à s'effondrer un peu dans tous les sens. Peut-être que les joueurs n'avaient pas vu avant, mais bon, là, c'est clair, en fait, ils se font pister et tout dans l'espace et le temps par des espèces d'écho, en fait, de Delta Green qui les poursuit, puisqu'en fait, ils ont déjà été contaminés, donc Delta Green veut les éliminer, mais du coup, cette espèce de course-poursuite est complètement démentielle parce qu'ils sont déjà complètement corrompus, donc ils se rendent pas vraiment... Enfin, bref, je vais pas m'apesantir. Bref, l'idée c'est qu'ils vont fuir et à la fin ils vont arriver à une sorte d'endroit qui s'appelle l'hôtel Brodalbin. Donc l'hôtel Brodalbin, c'est un truc qui est issu donc d'une des nouvelles. Donc un truc qui ne peut parler que aux gens qui vraiment qui a une poignée de personnes. Donc c'est un des autres auteurs de Dead End, John Scanlines, qui avait écrit une de ses petites nouvelles Brodalbin. C'est un truc un petit peu, c'est une histoire où enfin, sur un hôtel un peu bizarre ou qui est à mi-chemin entre l'hôtel de The Shining et je sais, enfin le festin nu que j'avais référencé, je sais pas si vous avez vu, c'est pareil, c'est un truc, c'est un peu à la limite entre la réalité, enfin, on sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Quoi qu'il en soit, donc les joueurs vont arriver là et c'est toujours très 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 surréel, mais en dessous il y a un scénario très très relativement linéaire. En gros, les joueurs vont devoir trouver un labyrinthe sous l'hôtel qui va les amener à Carcosa. Donc Carcosa, qui est l'espèce de nexus, le truc qui, enfin l'espèce de ville, monde, chose qui tourne en fait autour du rang jaune, qui est au centre en fait de cette espèce de distorsion de la réalité. Et à la fin, vous avez donc le dernier scénar, End of the World of the End. Là encore, c'est très sympa. C'est un petit côté, bon, c'est mignon sorti, mais bon, voilà quoi. Ça, c'est un peu l'auteur qui montre qu'il est. C'est un auteur, quoi. Voilà. Des fois, je trouve. Donc là, c'est une errance un peu dans Carcosa, où la réalité ne veut plus dire grand-chose. Y a pas mal de refs là, qui sont, à mon avis, relativement dispensables pour pouvoir, à la fin, arriver devant le roi en jaune. En plus, non seulement je pense que c'est indispensable, mais en plus... Je me pose des questions sur la jouabilité de ce truc-là, parce que cette partie est excessivement mortelle. Enfin, si vraiment on suivait les règles, c'est extrêmement mortel. Et si on suivait vraiment les règles mot à mot, mais tous les joueurs seraient morts là, on réinjecterait des persos qui n'auraient pas vraiment de... enfin de raison d'être pour les joueurs à part juste continuer en fait à jouer à cette aventure. Donc je pense que cette partie-là est assez redondante et assez mal foutue. Contrairement aux deux scénarios du début, qui d'ailleurs globalement de ce que j'ai vu sur internet sont ceux qui sont les plus appréciés. Donc à qui en recommanderiez-vous Eh oui, et après tout ce dernier scénario, vous avez toute une plein d'appendices avec des espèces de sorts, des objets, des persos, ce type de trucs. Et le signe en jaune. Donc à qui vous en recommanderiez l'acquisition? C'est compliqué à recommander, hein, franchement. Comme je disais, c'est un peu Twin Peaks RPG, mais vous avez 80% du bouquin sur la chambre rouge. Bon, désolé, je suis obligé de référencer un peu de trucs pour essayer de cerner le... Pour essayer de vous faire comprendre à quoi ça ressemble, mais bon, c'est juste que c'est trop focus en fait sur l'aspect surréel à mon goût, ce qui, je pense qu'il y a trop de trucs dedans, ça mériterait, je pense qu'il y a un problème d'édition, je reviendrai un peu plus tard. Parce que même si... Je saute certains passages où je suis encore plus salé et tout. Parce que pendant que je le lisais, j'ai râlé et tout sur l'auteur. Putain. Mais non, tu veux que je te dise les passages salés? Bon, ok. Voilà, bon, j'ai... Il y a quand même un conseil explique donc de pas trop en faire et de suivre une sorte de tension elliptique. Mais tout ce qu'il te donne, c'est que des trucs surréalistes qui... bien souvent, en fait, ne parle que à l'auteur. Enfin, tu vois, il me donne des trucs, il me donne un personnage complètement chelou qui a la logique dans la tête de l'auteur, dit un truc, je serais incapable de continuer, en fait, sur le personnage. Ou s'il y a un joueur qui va aborder ce personnage-là avec quelque chose de sensé et de crédible, comment, en fait, ce personnage-là va pouvoir continuer à répondre sans donner l'impression qu'on joue à Alice au Pays des Merveilles, tu vois. Et ensuite, j'ai l'impression que souvent, il se fait plaisir pour montrer que lui, c'est un artiste. C'est pas juste un scribouillard qui écrit des scénarios pour des MJ ou des joueurs qui vont jouer. Non, lui, c'est un artiste, il fait des trucs. Et des fois, il sort des trucs, mais il t'écrit littéralement des cutscenes, tu vois, des cutscenes. Et en tant que MJ, même en tant que MJ, j'ai eu l'impression que j'aurais pas d'agentivité en tant que MJ en face de cette putain de cutscene. Où je devrais, en fait, lire le truc, dire voilà ce qui s'est passé, et il t'écrit spécifiquement, non, mais s'il demande qu'il essaye de rattraper le gars, de machin, c'est impossible, rien ne se passera, tu vois. C'est bon, j'ai balancé une cutscene que l'auteur voulait balancer parce que voilà, lui c'est un artiste. Du coup, ça m'a. Voilà, là, j'étais un peu salé dans ces moments-là. Comme je disais, il y a pas mal d'injonctions à la manipulation qui des fois peuvent être intéressantes, mais qui peuvent pas être de bon goût hein, selon toutes les tables. Il y a souvent des endroits où on te dit de lancer un D20 mais ignorer le résultat. On te dit ouais, fais ça mais c'est juste pour prod les players, pour essayer de tester les joueurs. Et en fait, tu vas les manipuler. Donc bon, voilà. Ouais. Et comme je disais, au niveau de l'écriture, c'est plein de petits arcs qui, en fait, pourraient être très simples, mais j'ai l'impression qu'ils ont été volontairement rendus cryptiques par l'auteur, en mettant des choses à gauche, à droite, en découpant tout et en recollant tout un peu de façon spaghetti. Et il y a déjà, même pour un MJ, c'est très difficile de suivre le truc, donc je pense que pour des joueurs, c'est quasi impossible de comprendre des trucs. Donc ensuite... Mais après, ça pose aussi la question de la forme pour ce type d'ouvrage. C'est marrant parce que la structure sous-jacente est effroyablement linéaire, mais la façon dont l'information est recueillie, souvent j'ai dû faire des allers-retours, ce genre de choses-là. Peut-être qu'un bouquin, c'est pas la bonne forme et tout pour ce genre de choses-là. Un truc avec des liens hypertextes aurait été plus facile. Enfin, en tout cas, j'aurais bien aimé avoir une sorte d'IA pour me découper ce truc-là en graphes et pouvoir enlever des morceaux de trucs dont j'aurais pas besoin. Mais là, c'est très difficile aussi de couper là-dedans. Donc le fait que ce soit très mortel à la fin et que placer des persos de remplacement, c'est pas toujours évident. Enfin, en tout cas, pour les joueurs, ça risque pas d'être super sympa. Donc ça, c'est aussi un souci que j'ai noté. C'est que la mortalité dans Deltagreen sur des one-shots, c'est normal, c'est dans l'esprit du truc. La mortalité sur une campagne de Deltagreen, j'imagine que ça peut être fait parce qu'il y a des agents qui peuvent venir en remplacement. Mais là, à partir du moment où ils sont partis, en fait, dans cette espèce de cauchemar un peu tout seul entre eux, je pense que ça va être aussi difficile de faire venir du remplacement. Donc après, enfin moi comme je dis, au moins c'est un livre qui m'appelle et c'est indifférent. Il y a des moments où j'ai trouvé ça super, il y a une vision artistique, il y a des moments j'ai trouvé qu'il y avait des trucs un peu friands, des trucs un peu surréalistes, mais souvent j'étais frustré, je suis passé par toutes les émotions. Donc au moins, à défaut de le faire jouer, en tout cas c'est une lecture intéressante comme en tant qu'objet ludique. Après, si vous étiez parti pour avoir une campagne de Deltagreen, c'est un peu chaud, hein, parce que au-delà de la forte proposition artistique, en tant que campagne pour Deltagreen, c'est chaud. Il n'y a que quelques points de connexion à Deltagreen. Ça pourrait être en fait tout à fait enlevé, voire être une campagne de l'Appel de Cthulhu ou un truc un peu plus orienté 1890. Limite, ça serait mieux, parce que ça serait un peu plus dans cet esprit littéraire que du canon un peu moderne, machin, chose qu'on attend d'ODG. Allez-vous vous en servir? Et alors, je me suis longtemps posé la question. Au début, j'étais super partant. Au milieu du bouquin, j'ai fait ouais, non, c'est pas la peine. J'ai commencé à faire une liste de warnings pour essayer de trouver parce que c'est pas possible de se lancer avec des joueurs sans leur expliquer. Et la liste de warnings était de plus en plus longue. C'est pas une liste de warnings comme dans les encagés où c'est des trucs un peu qui vont mettre mal les gens. C'est qu'on risque, à mon avis, de perdre tout simplement des joueurs en cours parce qu'ils étaient partis pour une campagne un peu espionnage X-Files et ils se retrouvent un peu dans Alice au pays des merveilles version Nightmare. Et je suis pas sûr que c'est nécessairement ce que les gens attendent. Je pense que ça peut faire un truc éventuellement sympa, mais il faut largement prévoir les joueurs, enfin, prévenir les joueurs sur ce qu'ils vont s'attendre. Je me suis posé la question d'ailleurs, est-ce que moi j'aurais aimé en tant que joueur, eh ben, probablement pas, ou alors probablement avec beaucoup de travail. Et en fait, je suis content de ne pas avoir répondu oui aux deux tables que j'ai vues passer et tout sur OSRPG, le serveur australien auquel je suis, parce que on serait probablement retrouvé à se regarder, des fois sans parler, enfin, à moins que j'ai eu un MJ génial, où on ait une super interactivité, qu'il ait bien compris le truc, enfin, je sais pas quoi. Et des joueurs, je pense qu'il y a eu forte chance que ça ait foiré. Et j'ai regardé sur Reddit, j'ai vu beaucoup de cas où c'est parti comme ça, donc je pense pas que ce soit. Moi, je pense que c'est un peu. C'est un gros risque avec cette campagne. Et à mon goût, si, à mon avis, pour moi, hein, pour moi, il y aurait un problème d'édition. Enfin, après, peut-être il y a des gens qui se satisfassent avec ça, mais moi, je pense qu'il aurait fallu couper au moins 50% du truc. Il y a un paquet de refs à des trucs un peu obscurs d'auteurs. Qui pourrait être tout à fait enlevé et qui pourrait rendre le truc peut-être un peu moins cryptique pour que les joueurs s'y retrouvent un petit peu plus. Et je pense qu'il aurait fallu rajouter vachement plus de choses pour contrebalancer en fait ce côté complètement surréel et avoir quelque chose dans le réel. Là, c'est complètement renvoyé au MJ, donc mais aussi aux joueurs, hein, s'ils veulent construire leur truc, d'avoir une sorte d'ancrage dans le réel pour éviter cette overdose de surréalisme. Bon, ça, j'ai déjà été salé là-dessus, donc je vais passer. Mais bon, en tout cas, si je voulais la faire jouer, il faudrait vraiment couper. Et ça me fatigue rien que d'y penser. Parce que autant rajouter des trucs ou modifier des trucs, c'est. Ça le fait, mais couper des trucs, en fait, mine de rien, c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout dans ce truc-là qui a été volontairement tout embrouillé, tout recollé, les trucs un peu patchés entre eux, comme une sorte de plat de spaghettis. Je pense que ça c'est assez compliqué et je pense qu'on est obligé parce que sinon on va avoir une sorte de surdose de surréel où les joueurs vont lâcher et on va se retrouver avec c'est quoi là? C'est ta gueule, c'est surréaliste, ouais, c'est ça. Ou ta gueule, c'est arty. Pourquoi? Mais parce que voilà. Ensuite, ouais, le truc aussi il est super railroad. Pourtant, je suis assez tolérant et tout. Je suis assez tolérant. Hein. Je suis OK sur le fait qu'il y a Railroad, le truc se déplace plus loin, mais comme je vous dis et tout, des fois, il y a du. Même pour un MJ, j'ai eu l'impression qu'il pourrait y avoir un manque d'agentivité. Donc je pense qu'il faudrait énormément couper dans ces cutscenes, dans ces trucs-là, et reconstruire. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Et après, ma conclusion un peu salée. Désolé. Donc, ouais, au final, en fait, il y a cette espèce de... Ce truc qui est au tout début, qui était un peu cryptique et super arty, en fait, faut bien le lire. Et aussi à la fin, où en fait, les joueurs vont se retrouver en fait devant le roi en jaune, et ils vont comprendre qu'en fait, ce ne sont que des acteurs, que justement leur agentivité n'existe pas, qu'en fait leur monde réel n'existe pas, et que la pièce est écrite depuis le début et que tout est là. Je dis, putain, c'est ça la vision du jeu de rôle, c'est ça et tout, que c'est ça au final qu'on veut dire, c'est quand même un peu, enfin c'est je voudrais pas dire j'ai pas utilisé le mot en R, mais c'est un peu une vision un peu, c'est pas une vision moderne quoi du jeu de rôle, je trouve. Bon, après, j'aime bien le challenge, peut-être en faisant quelque chose. Il y a peut-être moyen d'y jouer, mais je vais vraiment, vraiment essayer de sélectionner un groupe. Voilà, désolé, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus parlé que ce que je ne pensais. Est-ce que vous avez des questions?
Moi j'ai une question. Tu parlais du troisième scénario qui était une référence à un truc tout à fait obscur. C'est quoi? C'est du fan service, mais très très niche, l'histoire de l'hôtel.
Alors moi je trouve que c'est un peu inspiré de bouquins, enfin de trucs genre The Shining, mais l'hôtel Brodelbin en fait, c'est, il le dit au début. Ils sont plusieurs auteurs dans Delta Green, et donc il y a Dead Veller qui est un des principaux auteurs. Il y en a un autre qui allait au tout début et tout, écrivait aussi, qui est un peu réécrit dans les trucs récents, qui s'appelle John Scott Tynes, et il avait écrit quelques nouvelles, c'est inspiré d'une de ses nouvelles, qui n'est plus disponible à l'impression, que tu peux trouver nulle part, à part sur un vieux point de archive.org, où t'as un truc un peu vaguement en HTML, donc c'est hyper autoréférencé. Au début j'avais un mot méchant et tout, pour ce genre de truc là, mais je l'ai gardé. Mais en soi, c'est sympa, hein. En tout cas, c'est un autre type de... Enfin, ça sort largement, en fait, des canons habituels. Peut-être que c'est ça aussi, on n'est pas habitué, tout, à ce type de... C'est pas plutôt horreur, mais d'étrange. C'est peut-être ça, et si... Je m'attendais peut-être à un truc un peu plan-plan, et j'ai peut-être été un peu secoué, au final, par... par quelque chose de différent. Donc, ouais, c'est une référence à... une nouvelle d'un des autres guides Delta Green qui a été écrite il y a 20 ans et qu'on ne peut plus trouver en bouquin.
Ouais, donc c'est très très niche comme référence.
On ne peut pas la trouver en EPUB sur Drive-Thru très facilement et puis pleurer de la qualité des nouvelles de Delta Green.
Ah non, j'ai essayé et c'est... Okay. C'est pas super. Je parle pas des nouvelles de Delta Green, ne parlons pas de ça. Restons focus sur...
J'ai pas d'autres questions, moi.
J'ai une question.
Ah, vas-y, Agnès.
Par rapport au fait, le côté cryptique pour le MJ, c'est genre juste il y a beaucoup d'infos et il faut pas tout mélanger, ou c'est l'optique comme dans certains jeux, où c'est un peu énigme à résoudre pour le MJ, genre ça va être tellement chouette pour le MJ de devoir comprendre tout au niveau des informations. Ça fait un jeu pour lui, parce que ça sert à rien de donner les informations clairement, évidemment.
Non, juste qu'il y en a beaucoup, et comme c'est hyper surréel, des fois ça n'a pas vraiment de logique en fait. Mais si tu veux faire le lien toi-même, tu peux faire les liens à travers le bouquin. C'est juste très surréel et relativement étrange, donc un peu compliqué.
Okay, merci.
Mais tout à fait trouvable. Après, s'il y a des petites histoires avec des anagrammes, etc. Si tu veux te casser le crâne, ce genre de trucs là, peut-être tu t'en trouveras des trucs un peu cachés, mais c'est que des bonus là par contre pour le coup. Par contre, je pense que j'ai peut-être trouvé de la kryptonite pour Gorgor Bay dans ce livre.
Ah ouais, laquelle?
Non, ce côté un peu jeu de rôle classique, Railroad plus...
Ah oui, c'est plus mon kiff. On y viendra parce qu'on en parlera dans Route.
Bon, après, je veux pas avoir l'air non plus trop salé, hein. Comme je disais, j'ai pas mal pesté en le lisant, mais ça aurait été un livre de chiant, je l'aurais pas été jusqu'à la fin. Là, je l'ai vraiment complètement lu, j'ai eu plein de réactions différentes. Je pense que c'est aussi, je comprends parce que c'est différent. Par contre, le fond du fond, l'armature reste quand même un peu classique. Le décorum, peut-être par-dessus, on aime, on n'aime pas. En tout cas, il y a une proposition artistique certaine.
Je vais peut-être couper la parole à Aplo parce qu'il a encore une question, mais tes réactions mitigées, justement, ou très variées, c'est pas dû au fait que, ah ouais, c'est bien écrit, c'est original, genre comme quand tu lirais un roman, et puis quand tu dis, je vais devoir mettre ça en pratique, c'est vraiment de la merde.
Ouais, j'irai pas jusque c'est vraiment de la merde, mais est-ce que j'arriverai à mettre ça en pratique et surtout est-ce que ça sera apprécié en fait par les joueurs tout simplement, tu vois.
Ah, je vois. Vas-y, Apple, je t'ai coupé la question.
Ouais, juste avant une remarque, t'as tout à fait le droit d'être salé et plus méchant, Algol. En tout cas, moi, je te jetterai pas la pierre. Et du coup, sur le gros spaghetti, est-ce que tu vois un moyen de, entre guillemets, trancher dans la semoule pour réussir à avoir un lien plus simple entre tes arcs et te dégager un espace de respiration pour quand même te servir de ton bouquin de 300 pages à 150 balles. Voilà.
Ben, compliqué. Compliqué. Je sais pas, tu l'as lu, toi. Tu me diras peut-être que t'as cité une idée, mais je pense que c'est compliqué de couper des arcs. Bon, après, le pire, c'est qu'ils
sont même... C'est pas couper des arcs, mais est-ce que t'arrives à déterminer un chemin, justement, qui te permettrait une prise en main, ou pour toi, c'est vraiment trop du Jackson Pollock en JDR Railroad, quoi, tu vois ? Je sais pas si je suis très clair.
Écoute, je sais pas, parce que je pense que tu peux le faire jouer et les joueurs vont juste devoir quelques trucs, ils feront peut-être zéro connexion, du coup ils vont juste se retrouver avec une sorte de spectacle et tout, de trucs un peu surréels, peut-être plus ou moins bien écrit, enfin plus ou moins bien rendu par un MJ, mais bien écrit. Mm-hmm. Juste que je pense qu'ils vont complètement se perdre, ils risquent de perdre l'intérêt, donc il faut enlever, et pour enlever ce genre de trucs-là, la structure du bouquin est... le fait que la structure du bouquin, elle, par contre, est linéaire, je pense que c'est compliqué. Il faudrait une sorte de format différent qui représente, en fait, ce genre de truc-là. Une sorte de truc format graphe où tu pourrais enlever tout un pan du graphe et tu pourrais les enlever. Tu vois, un truc un peu dynamique qui t'aiderait là-dessus. Mais là, avec le bouquin tel que tel qu'il est écrit, c'est compliqué.
Et est-ce que tu crois pas que... Non, mais JDR contemplatif, je suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où moi, en tout cas en PJ, j'ai pas trouvé ça très contemplatif, on pouvait bien participer et tout. On était juste d'accord que l'objet du truc, c'était que nos personnages vont clairement devenir fous, et que c'est un jeu de dupes, et qu'ils vont pas s'en sortir. Mais on avait mis les choses au clair avant, quoi. Et du coup, dans les enquêtes et tout, il y avait pas trop de soucis... Enfin, jusqu'à ce qu'on arrête. Mais question bête, est-ce que tu penses pas que c'est une campagne qui peut s'insérer dans une campagne ? C'est-à-dire que c'est une campagne qui était vendue comme une campagne, mais qu'il faudrait jamais faire jouer d'un coup, qu'au contraire, ce serait quelque chose qui pourrait aller dans un truc sur un beaucoup plus longtemps, avec des PJ ?
Non, au contraire, parce que je pense que...
Tu penses pas ?
Au contraire, je pense que c'est l'inverse. Il faut couper en fait largement des trucs vers la fin et vers la deuxième moitié de ce truc-là et la faire jouer beaucoup plus courte, parce que je pense qu'au bout d'un moment, t'en as un peu marre en fait du surréel où tu comprends pas. Du coup, je pense qu'au contraire, il faut réduire cette partie-là, surtout la partie de la fin. Et au contraire, je pense qu'il y a un peu d'impact le fait de savoir que 20 ans plus tard et tout, les choses reprennent et qu'en fait, tu te rends compte qu'en fait, mais peut-être que dans cette espèce de dimension du rang jaune, en fait, t'en es jamais sorti, que tout a continué. Non, je pense qu'au contraire, au mieux le jouer tout ça à la suite de l'autre, mais par contre, énormément coupé sur le troisième et le quatrième scénario. Et enlever pas mal d'arcs du premier et du deuxième pour que les joueurs aient une sorte de un peu plus d'accroche et rajouter beaucoup plus de scènes du réel pour essayer de. Pour essayer que ces passages surréels aient plus d'impact. Okay. Donc c'est moi comme ça que je le vois. Après, on n'a pas tous la même vision du truc.
Ouais, déjà, il faut passer le côté arty, comme tu dis. Ouais. Moi, j'ai pas plus de questions.
Eh bien, à ce moment-là, je ne sais pas qui va présenter quelque chose d'après. Qui est-ce qui allait faire présenter le prochain bouquin ?
Je peux me lancer, si ça va, Aplo.
Eh bien, oui, encore, vas-y. Qu'est-ce que tu vas nous présenter ?
Je vais vous présenter Route. Route, c'est quoi ? Alors, tout d'abord, un peu de contexte. Root, c'est un jeu de plateau totalement asymétrique où on joue des petites factions de petits animaux tout mignons dans les bois qui vont prendre le contrôle, essayer de prendre le contrôle d'une clairière. C'est un jeu de course au point de victoire avec des mécaniques totalement asymétriques, comme je l'ai dit. Donc globalement, chaque faction se joue différemment. Le jeu de base est sorti il y a quelques années déjà. Il a eu un très bon succès. C'est un très bon jeu. J'aime beaucoup. Il y a 4 factions dans le jeu de base et il y a 2 extensions qui rajoutent chacune 2 factions. Alors, le jeu de base, il y a quoi? Il y a la Marquise des Chats, qui est une sorte d'industrie qui prend le contrôle des bois, qui coupe des arbres et tout et tout. Il y a les dynasties des oiseaux qui font des nids un peu partout et qui essayent de reprendre leur... gloire d'antan. Il y a le petit peuple qui se révolte contre les grandes puissances. Et il y a les vagabonds. Enfin, le vagabond, parce qu'on n'en joue qu'un normalement dans le jeu de plateau. Qui, en fait, lui, se promène dans la forêt, qui achète des choses aux autres factions, qui fait des petites quêtes, qui fait ses trucs dans son coin et qui essaye de gagner des points de victoire en profitant de tout le monde. Et donc de ça, sûrement en surfant sur le succès du jeu de plateau, ils ont décidé d'en faire un jeu de rôle. Qui, étonnamment, partant d'un jeu de plateau relativement complexe et complet et pas facile à maîtriser, ils ont décidé d'en faire un PBTA, qui, comme vous le savez maintenant si vous écoutez les chroniques régulièrement, qui est un jeu, c'est une mécanique narrative et donc qui va supporter les histoires avec une mécanique généralement simple, pas forcément simpliste, mais qui va cadrer l'évolution de l'histoire au fur et à mesure en fonction des jets de dés. Et des choix narratifs des joueurs et qui met en avant la narration partagée. Donc c'est un choix assez étonnant. J'avoue que quand j'ai vu qu'ils faisaient un jeu de rôle Root, j'ai fait « mais c'est quoi ce bordel ?» En tout cas, un jeu de rôle Root basé sur le système PBTA. Donc pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce que Agnès... en avait parlé, que c'était l'occasion de le relire et de me faire un avis un peu plus concret sur la chose parce que je l'avais juste feuilleté. Et donc voilà, c'est ce qui a déterminé mon choix pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on y trouve dedans? Alors, il faut savoir qu'il y a un super bundle à $225 qui comprend le bouquin de base, l'extension Traveler et Outsider, l'écran... avec un petit supplément sur les clairières, plus plein de goodies. Donc le jeu de base coûte $40, il fait 257 pages. L'extension coûte $40 aussi, il fait 258 pages, elle est plus grosse que le jeu de base. Et puis il y a le bouquin de clairière, et puis il y a toute une série de petites goodies, genre des cartes d'équipement, des cartes de clairière, bref, plein de petits accessoires qui peuvent être intéressants, mais qui ne sont pas indispensables. Qui est la cible de ce produit? Moi, j'ai l'impression que ce sont des platistes, des joueurs de jeux de plateau, qui pourraient vouloir se lancer dans le jeu de rôle et donc qui ont bien aimé Root, parce qu'il y a un petit côté... on peut amener un petit côté narratif dans le jeu de plateau en disant « Haha, mes chats, ils vont conquérir la forêt » et puis on rajoute un peu de fluff entre les différents tours après vos actions en fonction des cartes qu'on joue. Et on pourrait envisager que le joueur platiste ayant envie de s'impliquer plus dans la vie de son personnage ou de sa faction et veuille se lancer dans le jeu de rôle. Une autre cible du produit pourrait éventuellement être les fans, les gens qui aiment le design du jeu, jouer des petits animaux mignons dans la forêt, qui font plein de choses. On verra après ce qu'ils font, mais ça pourrait aussi être la cible du produit. En dehors de ça, je ne vois pas d'autres cibles prédésignées. Je pense que c'est surtout de l'opportunisme qui a généré le PBTA qui découle du jeu de plateau. Qu'est-ce que je pensais y trouver? En fait, j'en savais strictement rien. Quand j'ai vu ça, c'était un gros what the fuck. Je me suis dit que j'allais jeter un œil par curiosité, parce que j'aime bien voir un peu ce qu'on peut faire. Et donc, je ne savais pas du tout ce que j'allais y trouver. Le mélange jeu de plateau et PBTA était assez surprenant. Ce que j'y ai trouvé. c'est là que c'est les Romains s'empoignèrent, comme on dit. En gros, en fait, un petit historique, le jeu de plateau a été fait par Leader Game et le jeu de rôle a été fait par Magpie Games. C'est eux qui ont fait toute une série de PBTA qui sont, certains sont connus, d'autres moins, mais qui ont généralement fait parler d'eux. Il y a Avatar Legends, qui est sorti en français il n'y a pas très longtemps, ou qui est sur le point de sortir. Il y a Zombie World, qui est un très bon PBTA où on joue des zombies. Enfin, on ne joue pas des zombies, on combat des zombies, on essaye de survivre. Et il y a Passion de las Passion, qui simule des telenovelas, qui a plein de mécaniques intéressantes. Il y a Urban Shadows, qui est vachement en retard au niveau du Kickstarter de la deuxième édition, parce que Avatar est passé avant. Il y a Mask, qui est un très bon PBTA aussi. Il y a Bluebird's Bride. Enfin, ils ont fait toute une série de bons jeux chez Magpie Games, principalement des jeux narratifs. La question qui se pose derrière ça, c'est pourquoi Root et pourquoi PBTA ? Personnellement, j'en sais rien. À mon avis, ils se sont dit, Magpie, ils ont de l'expérience et donc on va leur confier. Où ils ont créé des liens, ils sont lancés dans ce truc-là. J'avoue que c'est un des jeux de rôle qui m'étonne le plus en matière de conception. Pour mettre un peu de contexte derrière tout ça, c'est un jeu où il y a des factions, il y a des PNJ, il y a des conflits, et généralement l'ensemble du jeu s'oriente sur un jeu assez ouvert et assez libre, qui va déterminer ce qui se passe si les PJ ne font rien, et le but étant que les PJ s'impliquent dans les conflits et fassent évoluer les conflits dans une certaine direction. Le bouquin en lui-même, il est relativement bien structuré. Magpie, ils connaissent leur boulot, ils savent écrire un PBTA correct. C'est bien présenté pour quelqu'un qui n'en a jamais fait. C'est structuré, il y a toutes les infos nécessaires, c'est clair. À ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à dire. Enfin, moi, je n'ai pas lu tout en détail parce que la plupart des choses, je les ai déjà lues 50 fois dans d'autres PBTA. Mais ça a l'air vraiment bien foutu. Donc, pour tout ce qui est qu'est-ce qu'un jeu de rôle et qu'est-ce qu'un PBTA, ils ont fait leur taf. On arrive à la partie règles. Pour moi, c'est là que le jeu pêche le plus. Le principe du PBTA, c'est avoir des manœuvres qui vont en fonction de déclencheurs. Donc, par exemple, je veux frapper quelqu'un. On jette les dés et on voit si ça se passe bien, moyennement bien ou pas bien pour celui qui a initié l'action, qui a tapé dans le déclencheur, mais pas dans le sens où c'est réussi ou c'est raté, mais plutôt vers où l'histoire va évoluer. Donc on peut réussir à frapper quelqu'un en faisant un échec, mais l'histoire va s'aggraver d'une façon ou d'une autre. Genre il y a des vaches qui vont commencer à tomber du ciel. C'est pas trop le thème du jeu, mais c'est pour donner un exemple. C'est pas aussi carré qu'un jeu traditionnel. Et donc, les règles couvrent toute une série de choses. Ça couvre les actions de base. Il y a beaucoup de manœuvres, déjà de base. Je pense qu'il y en a une petite dizaine. Ça couvre le combat, qui est relativement complexe pour un PBTA. Il y a une notion de technique de combat. Il y a la gestion des armes. Il y a toute une série de choses spécifiques et il y a des manœuvres qui sont propres au combat. Ensuite, il y a la réputation. Il y a des manœuvres qui sont spécifiques à la réputation aussi. Il y a le voyage. Il y a des manœuvres qui sont spécifiques au voyage. Et puis, il y a les manœuvres de session pour voir si est-ce qu'on a appris quelque chose, est-ce que notre personnage gagne une amélioration, des choses dans ce genre-là. Toute la structure est globalement classique, mais ils ont approfondi certaines choses. Et ils ont créé vraiment des spécificités pour certains aspects. Il y en a certains en particulier sur lesquels je vais revenir. Dans les actions de base, il y a ce qu'ils appellent les roguish feet. C'est une manœuvre spéciale. Chaque personnage va pouvoir choisir, on va dire, une partie de domaine de compétences qui sont généralement associées avec les voleurs, les filous. Et quand ils vont taper là-dedans, ils vont avoir un meilleur résultat que les autres joueurs qui n'ont pas ces spécialités-là. Alors, ça rentre dans un degré de détail très, très ciblé et ça ressemble à une liste de compétences. C'est pas terrible. Enfin, pour un PBTA, je trouve que l'approche n'est pas idéale du tout. Ça a tendance à spécialiser les personnages dans certains domaines très, très spécifiques et je n'y vois aucun intérêt. Ensuite, le combat, bah, c'est manœuvre particulière et il y a toute une ribambelle de choses avec les techniques de combat. Ça rentre aussi dans un détail assez poussé bah, à certains moments donnés. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt en fait. Enfin, ça devient très technique et très tactique. Suffisamment tactique pour être pour amener de la complexité. Pareil pour la réputation. Ils ont fait une piste de réputation que les PJ vont avoir. Il y a une page qui explique ça avec trois exemples de capture d'écran pour expliquer comment la piste de réputation fonctionne. C'est compliqué en fait pour rien au final. Je pense qu'il y aurait eu moyen de trouver des solutions beaucoup plus simples. Il y a d'autres jeux qui gèrent ça de manière plus propre. Ça amène de la complexité pour rien. Le voyage et la session, ça c'est assez classique et il n'y a rien de spécial. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail de ce qu'on joue dans Route. Je vais y venir maintenant. Donc, je vous ai expliqué toutes les factions qu'il y avait dans le jeu de plateau. Dans le jeu de rôle, on joue uniquement des vagabonds. Alors, le principe des vagabonds dans le jeu de plateau, c'est qu'il y en a un et qui se balade un peu partout et qui essaye de retirer, d'optimiser en fait ce qu'il retire de toutes les autres factions. Ici, la proposition de base encourage les joueurs, enfin, met en place un groupe de vagabonds. Donc déjà, les vagabonds, par essence, sont censés être des solitaires, des individualistes. Sauf qu'ici, tous les PJ sont des vagabonds, ils forment un groupe et ils ont une raison d'être. Le jeu dit explicitement, si jamais vous n'avez plus de raison de faire partie du groupe, ben vous quittez le groupe et vous ne jouez plus, parce que le principe c'est de jouer un groupe de vagabonds, ou si vous vous associez à une faction, vous ne jouez plus non plus, parce que le but c'est d'être indépendant. Donc le scope de ce que les joueurs vont incarner comme personnage est très limité, même s'il y a plein de livrets différents qui sont disponibles, c'est vous allez jouer un groupe de vagabonds individualistes mais qui travaillent ensemble pour de multiples raisons. Alors c'est pas forcément un mal, mais j'y vois un petit côté artificiel, genre on ne sait pas trop ce qu'on allait faire jouer au PJ, on s'est dit qu'on allait faire jouer des vagabonds, les vagabonds ils sont tout seuls, et ben on va faire un groupe de vagabonds et voilà. C'est au niveau concept, ça ne m'a pas parlé énormément. À côté de ça, il y a toute une série de playbooks dans le bouquin de base, il y en a encore plus dans l'extension, qui permettent de jouer, de typer son vagabond. Donc ça peut être quelqu'un qui rend la justice, ça peut être un vilain voleur à l'étalage, enfin bref, il y a toute une série de playbooks qui sont disponibles, mais qui sont toujours orientés, souvent orientés en tout cas, vers des personnages un peu filous. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant dans le jeu? Il y a une mécanique d'avancement qui fonctionne uniquement par la motivation du personnage. Donc en fait, il ne progresse que quand il arrive à évoluer en direction de sa motivation. Et sa motivation peut changer au fil du temps. J'ai bien aimé cette mécanique-là, elle est assez fluide, il n'y a pas de point d'expérience, rien du tout. C'est justement assez... Ça fait contraste en fait par rapport aux autres mécaniques qu'ils ont insérées et qui demandent de cocher plein des cases. Ben ici, la progression est très très au feeling et très très narratif. Quand on regarde le combat et la santé, ben on a plein de petites cases à cocher pour voir quand on prend des dégâts, pour voir si on est hors combat, si on est fatigué, si on est blessé, si on perd des ressources matérielles, des choses dans ce genre-là. Et puis à côté de ça, il y a de l'équipement spécialisé qui s'use au fil du temps. Et donc il faut cocher des petites cases et puis il faut les réparer. Ça ramène les mécaniques du jeu de plateau. En tout cas, ça les rappelle fortement. C'est fort détaillé, enfin trop pour moi, pour un PBTA, j'aime pas du tout ça. Mais voilà, on voit le côté très ludiste qu'ils ont essayé de retranscrire dans le jeu de rôle, où on va faire beaucoup de gestion de ressources, que ce soit la réputation, les équipements, notre état, l'état du personnage. Tout ça en fait est géré sous forme de petites cases à cocher et va s'accumuler. On pourra réduire les cases en se reposant, en réparant les objets, etc. Alors, comme vous l'avez sûrement compris, j'ai pas du tout aimé toutes les sections mécaniques, toutes les mécaniques qu'ils ont rajoutées en dehors de l'avancement sur le squelette des PBTA. parce que ça amène énormément de complexité pour pas grand-chose. On va commencer à faire de la gestion de cases. On va délaisser, je pense, l'aspect narratif pour mettre en avant plutôt une gestion de ressources. Et on perd, je pense, l'essence. Enfin, il y a des PBTA qui fonctionnent comme ça, mais on perd vraiment l'essence de ce qu'un PBTA peut amener. Je le trouve pire que Dungeon World. Dungeon World, c'est pas mon PBTA préféré, loin de là, mais est une bonne transition pour quelqu'un qui viendrait d'un jeu tradit genre Donjons et Dragons. Ici, quelqu'un qui vient du jeu de plateau et qui se lance dans Route, il a cette notion de gestion de ressources qui reste et qui est assez poussée, et donc ça pourrait lui l'intéresser. Clairement, un joueur de plateau ne serait pas trop dépaysé, et à voir s'il arrivera à prendre en main plus de narration, mais ça pourrait être une bonne transition pour lui. Moi, c'est pas mon cas, donc ça m'a pas parlé du tout. Mais voilà. Sinon, qu'est-ce qui reste dans ce bouquin-là ? Y a une section classique qui explique le rôle du MC, qui est très PBTA-esque. C'est bien expliqué, c'est complet, c'est une bonne chose. On explique comment créer la clairière ou le monde. Donc dans le bouquin de base, c'est une création généralement collective où le MJ amène des conflits et les PJ vont devoir s'immiscer dans les conflits pour les résoudre ou les aggraver en fonction de leurs objectifs, parce que les PJ ne sont pas forcément des gens bien. Puis il y a des exemples de clairières avec des conflits préétablis. Alors j'ai bien aimé les clairières pour une raison, les différentes, on va dire, propositions de clairières, parce qu'elles proposent une explication globale, donc un résumé qui tient sur une page. 4-5 pages de PNJ, ou parfois moins si les clairières sont moins détaillées, mais des PNJ avec leur motivation et tout. Ensuite, toute une série de lieux qui sont décrits. Et puis, comment commencer la clairière. C'est relativement bien foutu, ça donne une sorte de mini bac à sable. Et puis, les PJ peuvent interagir avec tout ça, on les met dans le bain et on voit comment est-ce qu'ils font évoluer la situation. Ça, c'est un point positif du jeu, c'est les amorces, on va dire, de scénarios qui sont justement très ouvertes, pas du tout linéaires, avec chacun des objectifs, et on met tout ça ensemble, on mélange, on rajoute les PJ, et on voit comment ça évolue. Ça, c'est très PBTA dans l'esprit. Quand on lit le... Ça couvre globalement le bouquin de base. Quand on lit l'extension, elle rajoute quoi ? Elle rajoute des nouvelles factions, qui vont chercher, en fait, qui viennent des extensions du jeu de plateau, des nouveaux livrets de personnages pour incarner des vagabonds différents, des nouvelles manœuvres. Ah ben oui, on va en rajouter encore quelques-unes. C'est pas comme s'il n'y en avait pas déjà une vingtaine, voire une trentaine quand on a progressé un petit peu. La notion de maîtrise, c'est-à-dire un effet sur un 12+, sur certaines manœuvres. Donc on rajoute un peu de complexité sur les manœuvres, même si certains PBTA comme Apocalypse World ont ce genre de progression. Ça reste assez anecdotique. De nouveaux équipements, donc beaucoup de matériel en plus, histoire d'avoir encore plus de choses dans quoi piocher. L'extension Travelers and Outsiders amène aussi des aides de jeu pour faire jouer le jeu en campagne. Alors il y a plusieurs modes, on peut jouer avec plus de factions, des nouvelles règles propres aux factions, la gestion des factions lorsque le temps passe, les rumeurs, comment les incarner. Et il y a aussi une méthode de création du jeu en partant du jeu de plateau et en l'utilisant pour créer le monde. Alors j'avoue que je l'ai survolé, je ne l'ai pas lu en détail. Parce que je joue principalement distanciel, donc c'est un peu plus chiant. Et puis, il faut qu'on ait des joueurs qui connaissent un peu le jeu de plateau pour s'imprégner vraiment du thème avant. Mais ça peut être une base intéressante et une façon de développer le monde intéressant. Il y a de nouvelles clairières aussi qui sont proposées dans l'extension. Et le bouquin qui va avec l'écran comprend 4 nouvelles clairières aussi. Donc avec toujours présentation, PNJ, lieu et comment commencer, comment amener les PJ dans l'histoire. Alors, un retour global, c'est qu'il manque des illustrations pour la plupart des PNJ. Le jeu a un design très intéressant, très cartoonesque, petits animaux mignons. Le thème du jeu est beaucoup plus dark, si on veut le jouer, ça laisse libre cours aux... aux pulsions des PJ qui jouent pas des animaux gentils forcément, même si ça reste une option. Mais il y a très très peu d'illustrations de PNJ et pour en trouver, ça va être compliqué parce que c'est pas les animaux anthropomorphes à la route, c'est pas ce qu'il y a de plus courant dans le monde. Donc ça manque vraiment de quoi. Moi, j'aime bien avoir pour chaque PNJ une illustration, que ce soit une photo ou une image. Ici, ça va être compliqué. Je trouve qu'il y a énormément de manœuvres et que ça dessert le jeu. En fait, ça amène beaucoup de complexité, beaucoup de choses à lire. Que les manœuvres de combat sont tout à fait dispensables. Ça amène un degré de précision en gestion de combat ou une complexité supplémentaire qui ne sert à rien. L'équipement est beaucoup trop détaillé. Alors, pour revenir sur les manœuvres de combat, Root est sorti en 2020, en anglais, si je me souviens bien. Et dans la foulée, ils ont sorti Avatar, qui a pris leurs ressources. Enfin, globalement, vu le succès que ça a eu en Kickstarter, les gens de chez Magpie ont investi toutes leurs ressources sur Avatar et ont mis leurs autres projets de côté. Et on voit que dans Avatar, ils ont repris certains concepts qu'ils avaient amenés dans Root, mais ils les ont affinés. Genre, il y a une piste d'équilibre qui pourrait être assimilée à la piste de réputation, mais qui ne fait qu'il y a un équilibre à zéro, et puis ça va d'un côté jusqu'à plus 3 et d'un côté jusqu'à moins 3, et c'est tout. Et c'est beaucoup plus simple à gérer que la piste de réputation de route. Idem pour les manœuvres de combat. Les personnages vont avoir des manœuvres. Je trouve que dans Avatar, c'est un peu limitant, mais elles sont mieux amenées, plus claires dans Avatar. Et la structure des combats est plus clairement amenée aussi, même si pour moi, elle est trop mécanique à mon goût. Donc, on arrive à un jeu un peu hybride. Il y a des choses qui sont sympathiques, comme la motivation ou même la nature des personnages. Mais il y a toute une couche d'aspect gestion de ressources qui est vraiment encombrant pour moi, qui est tout à fait dispensable. La proposition de jouer les vagabonds, comme je l'ai dit, j'ai du mal. Enfin, pour moi, ça tilde pas, ça me semble pas naturel. Le jeu, même si moi je l'ai pas testé, ça m'a l'air un peu clunky, un peu dur à faire tourner sans rien oublier. Ça ressemble plus à des anciens PBTA ou ça ressemble au jeu de plateau, donc faut aimer. Il y a beaucoup de textes. J'ai vu pas mal de critiques là-dessus. Les gens se plaignaient de la mise en page. Moi, ça ne m'a pas dérangé, mais il y a pas mal de gens qui se plaignaient de la mise en page. Je n'ai pas trouvé ça illisible. Et donc, à qui est-ce que je recommanderais l'acquisition ? Pas à moi, c'est trop tard, malheureusement. Maintenant, j'avoue que je ne recommanderais pas l'acquisition de ce jeu-là. En tout cas, si vous voulez un PBTA, n'allez pas choper ce jeu-là. Si vous voulez un jeu hybride entre le jeu de plateau et le jeu narratif, peut-être que c'est une bonne pioche, mais en dehors de ça, voilà. Je ne vois pas à qui d'autre recommander ça. Est-ce que je vais m'en servir ? Non, en fait. Est-ce que j'aurai l'occasion d'y jouer peut-être si jamais je vois une session qui se présente ? Je le testerai bien pour vérifier mes assumptions sur le système, par curiosité, mais j'irai pas plus loin que ça. Et ça termine ma critique de route. Avez-vous des questions ?
Alors, j'ai pas des questions, mais comme j'ai lu le livre aussi, je me dis que ça peut être comme ça, je complète par rapport à ce que tu as dit, les points où je suis en accord ou pas. Mais je suis quand même très d'accord avec toi. Donc, pour la petite histoire, ça faisait un moment que le jeu m'intéressait et on me l'a offert à Noël. Ce qui est bien quand on offre un jeu à Noël en famille, c'est qu'on peut le lire tout de suite et le faire jouer tout de suite parce qu'on a des joueurs plus ou moins consentants autour. Puis ils l'ont offert, donc ils doivent bien assumer. Donc, clairement, moi je connaissais pas le jeu de plateau. Donc le fait que ce soit. On joue des vagabonds, que ce soit bizarre par rapport au jeu de plateau, tout ça, moi ça m'a pas dérangé du tout. J'aimais bien justement le fait qu'il y ait une proposition simple, assumée, voilà, vous êtes des vagabonds, vous faites ça. Comme ça, les joueurs savent ce qu'on attend d'eux. Pour moi, c'est un petit jeu qui est bien pour jouer pas très longtemps. Jouer 4-5 séances, des mini-campagnes en fait. J'ai bien aimé aussi tout ce qui était création de clairière, etc. Par contre, moi qui connais pas le jeu de plateau, je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup d'infos sur les factions. On nous donne une vision au départ très simple de la faction, et c'est tout. Genre, c'est vraiment très basique, quoi. Les oiseaux veulent reprendre leur grandeur passée. Les chats veulent couper des arbres. Oui, enfin, c'est un peu pauvre, je trouve, une fois qu'on pousse un petit peu pour le jeu. Par contre, voilà, c'est facile de faire des histoires simples, c'est quand même pas très dur de prendre en main. Par contre, oui, aussi, la mise en page, pas de problème non plus. Je savais même pas qu'il y avait des critiques là-dessus. Pas de problème pour ça non plus. J'ai joué une partie, et j'avais joué avec Boulash à Brindlewood Bay en PBTA. Je connaissais pas les PBTA avant ça, mais j'avais bien aimé. Et donc, j'avais dit à mon conjoint, tu vas voir, les PBTA, c'est sympa et tout, ça va être chouette. Ben, en fait, il a pas vu la différence entre ce jeu qui était un PBTA et un jeu avec un système ordinaire. Et je pense que c'est exactement ça. Si je lance une partie sur JDR virtuel, je ne présenterai pas ça comme un PBTA. Parce que pour moi, ça n'en est pas. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de manœuvres. Et c'est vraiment pas pratique à ce niveau-là. Voilà. Et non, je n'ai pas, pas lu l'extension. Je l'ai, mais je ne l'ai pas encore lu.
Seulement 40 dollars la violence. Il existe des systèmes automatisés pour le jeu ou pas ? Parce que j'avais vu des gens qui avaient l'air très enthousiastes de la sortie du jeu.
Alors j'ai regardé parce que ça m'intéressait sur Foundry. Et en fait, il y a quelqu'un qui avait commencé à faire un système automatisé, mais il ne marche plus avec la V11. Voilà.
Ah. Mais du coup, tu avais tous les moves et tout ça.
Ouais, il y avait tout qui était dessus, mais il marche pas.
Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le système générique PBTA et que je pense qu'ils viennent d'intégrer, c'est pas encore sorti, mais ça sera dans la prochaine version, ils viennent d'intégrer les pistes de réputation, donc globalement, on devrait pouvoir jouer avec. Maintenant, moi, j'y jouerai pas.
Et du coup, ça m'amène à ma question. Tu penses que c'est quoi comme type d'audience qui va y jouer, cette sorte de recouvrement plutôt avec les gens qui font du Dungeon World ou, enfin, tu penses que ça?
Je pense que ce sont des gens qui trouvent que Root est mignon et qui aiment bien des mécaniques sous le capot, même si elles ne sont pas super complexes. Tu vois, on n'est pas au stade d'un Rollmaster, mais tu as beaucoup de mécaniques. Et en fait, je pense que le jeu sera vite dénaturé, que l'aspect PBTA sera vite oublié pour être joué de manière très traditionnelle. J'ai déjà vu beaucoup de PBTA, enfin, j'ai eu l'occasion de jouer à des PBTA où le jet de dés va juste déterminer si tu réussis ou tu rates. C'est assez traumatisant, mais je pense qu'en fait il va être joué comme ça. Je vois mal comment tu peux mélanger le côté super narratif et puis après tu vas te plonger dans des règles très spécifiques parce que tu as donné ton coup d'épée comme ça ou parce que dans les manœuvres avancées tu as toute une série de manœuvres spécifiques. T'as des manœuvres à plus savoir qu'en faire, en fait. T'as l'impression que c'est une liste de compétences, tes manœuvres.
C'est vraiment comme ça que ça a été vu chez moi aussi, l'idée que les manœuvres, c'est une liste de compétences. Et sinon, pour le public, il y a quand même toute une dynamique de gestion de ressources. Il y a quand même un public pour ça. Typiquement, mon conjoint, c'est le genre de truc qu'il aime bien. Parce qu'il aime bien fabriquer des trucs. Donc le côté, on cherche des ressources, on les accumule et puis on fabrique des choses. C'est quelque chose qui peut lui plaire, et il aime bien le côté narratif aussi. Donc avoir un système qui mélange les deux, ça peut être sympa. Mais pour lui, les manœuvres comme compétences, ça n'avait pas d'intérêt en fait. Enfin, autant faire un JDR classique avec un système de gestion des ressources. D'ailleurs, c'est pas évident de se rappeler de toutes les manœuvres, je trouve, en tant que MJ, parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
Waouh, effectivement, on perd un peu l'avantage de la simplicité du design original, peut-être.
Ouais, et pour être tout à fait honnête, moi je l'ai masterisé de façon tout à fait ordinaire. J'ai pas utilisé de manœuvre, parce que mes joueurs ont fait des choses qui correspondaient à des manœuvres, hein, donc j'ai suivi les règles, hein, c'est pas ça, mais moi j'ai pas utilisé de manœuvre de MJ. Parce qu'il y avait déjà tellement de trucs à gérer du point de vue des manœuvres des joueurs. Bon, en fait, en tant que MJ, on peut jouer de façon tout à fait tradie avec les joueurs qui utilisent des compétences plutôt que d'utiliser des caractéristiques classiques.
Alors, en vrai, tu as sûrement utilisé des manœuvres de MJ, mais tu n'as pas pensé que c'était celles-là que tu utilisais.
Oui, c'est ça, mais j'ai pas réfléchi au fait de les utiliser. C'était pas actif comme jeu parce qu'il y avait déjà trop de choses à prendre en main.
Ouais, il n'est pas mignon. Enfin, il est mignon en apparence, mais il n'est pas mignon en pratique.
Ouais, bah, ça, c'est très simple. Hein. J'ai le livre sous les yeux. Si on commence avec comment on joue, etc., vraiment le... comment commencer une partie, etc., les manœuvres, qu'est-ce que c'est. On commence à la page 25 et on termine sur, à la fin de l'équipement, à la page 181.
Oh.
Voilà.
Ok.
Bon, là-dedans, il y a les livrets aussi. Hein. Il y a 30 pages de livrets, mais quand même, beaucoup de systèmes là-dedans. Et peut-être qu'en lisant l'extension, je serai un peu plus enthousiaste. Mais j'étais un peu déçue de ne pas trouver un PBTA, justement, parce que c'était un peu ça que je cherchais, en me disant, bah, tiens, j'ai bien aimé mon première expérience PBTA, ce serait l'occasion de me plonger un peu plus dedans. Et puis non.
C'est pas le bon.
C'est ça, c'est pas le bon. Mais ça fait un petit jeu sympa, quand même pas très difficile en termes de contexte à prendre en main, dans lequel on peut se projeter, je pense, très facilement quand on débute le JDR. Donc, peut-être adapté, effectivement, pour la transition JDR, jeu de plateau.
D'autres questions ?
Non.
Non plus.
Eh bien, Plo, qu'est-ce que tu vas nous présenter ?
Eh bien, du coup, je vais enfin parler de The Big Squirm, un supplément pour Troïka. Troïka, c'est un rétro-clone, on va dire, un peu barré, simple d'utilisation et d'accès, dont je ne vous recommande pas la VF. Voilà. Et du coup, j'aime bien ce jeu. Et donc, pourquoi j'ai choisi ce livre ? C'était un fou lancement il y a 2 ans et des brouettes. Je ne sais plus trop quand c'était. Bref, d'abord, je m'étais engagé à participer, puis je m'étais rétracté parce que j'essayais de me raisonner sur les fous lancements. J'essayais déjà à l'époque. C'est sorti. C'est pas sorti d'ailleurs au bout de... Parce qu'elle a commencé. S'il suivait le fou lancement et tout, il devait y avoir une boîte et tout. Bah, c'est pas le cas. Donc voilà, les éléments, c'est un bouquin format A5 avec des pages en papier un peu bouffant. Là, c'est agréable, je préfère ça au papier glacé personnellement. Ça fait 150 pages, la mise en page, elle est assez aérée, etc. Vous en avez pour 15 pounds, livre sterling, si vous achetez ça en PDF, sinon ça va être le double du prix, plus les frais de port depuis l'Angleterre ou les États-Unis, selon Exalted Funeral, voilà. Donc ça fait un peu plus cher. La cible du produit, bah, les joueurs de Troïka, donc c'est quand même, c'est quand même un contexte de jeu un peu particulier, puisque comme je disais, c'est assez barré. Troïka, c'est une cité aux dimensions infinies, avec plein de trucs what the fuck qui s'y passent, des espèces dans tous les sens un peu chelous. Il y a je sais plus combien de classes dans le livre de base qui correspondent aux limites, je sais pas comment dire, ce sont vraiment que des archétypes. Et voilà, c'est un jeu quand même un peu particulier, faut aimer quoi. Puis des gens qui cherchent des bacs à sable, je vais aller tout de suite sur ce que vous pensez y trouver. Donc ce que disait le Kickstarter, que je me remets sous les yeux histoire de pas dire trop de conneries. Voilà, donc vous allez jouer, en fait ouais c'est ça, c'est particulier, vous allez jouer des détectives privés, c'est censé vous donner une ambiance hard-boiled dans Troïka, donc le défi est intéressant, est-ce que c'est réussi, on en reparlera après. Voilà, et donc on enquête sur, basiquement, une espèce de spéculation autour des œufs d'un ver, alors c'est pas un ver à soie, c'est Scarfworm, je n'ai pas trouvé de traduction adéquate, le ver écharpe. Bref, il y a beaucoup de gens qui spéculaient sur la naissance d'un mâle, c'est très rare. Les gens se sont emballés, ils ont mis des sommes d'argent folles. Et à la fin, en fait, c'était un gros scam, la bulle a explosé. Et du coup, tout le monde est à couteau tiré dans un morceau de la ville de Troïka. Et voilà, et vos PJ ils doivent arriver là pour enquêter. Quoi. En tout cas, c'est ce qui est vendu au départ. Ce qu'ils vont découvrir va avoir des implications massives pour votre campagne en cours et tout. Ouais, bon, ça, déjà, rien qu'en le lisant, j'y crois pas, mais allez, pourquoi pas, disons que je m'attendais à trouver ça. Est-ce que ça peut être une bonne façon d'ameuter des joueurs dans l'univers de Troïka, et que ça peut même être une très bonne introduction au jeu de rôle ? Bah, écoute, on va voir. Du coup, ce que j'y ai trouvé, Donc, vous connaissez Procédural, chapitre 1, Running This Module. Donc, ils expliquent direct hein, que ce n'est pas de, comment, de l'exploration ou quoi que ce soit, c'est vraiment de l'investigation, entre guillemets, et que du coup, il va falloir chercher. Ils expliquent comment générer des informations rapidement, c'est à base de tables, etc. Tout à la fin, il y a une petite annexe avec les indices importants, des sources potentielles, des lieux où vous allez les trouver, vous allez pouvoir relier ça à mesure que vous avancez dans votre histoire pour bah, pour pas retomber deux fois sur les mêmes indices ou ce genre de choses. Voilà, sachant que les indices, ils sont pas que sur la situation du ver à soie. Bien entendu, il y a des factions qui ont des petits twists, des choses comme ça. Et que voilà, ça peut être intéressant à explorer aussi. Mais bref, voilà, le début, c'est assez straightforward, droit au but. Il explique que it is assumed that the player characters are soit des détectives privés, des gens qui ont qui ont investi dans cette dans ces œufs de verre et qui se retrouvent ruinés et qui donc veulent veulent aussi comprendre où est allé leur argent pour obtenir réparation ou potentiellement des gens qui vont servir de gros bras pour des compagnies et qui vont devoir enquêter pour savoir qui l'a tué ou qui a assassiné. Voilà. Donc un petit passage sur la génération des informations, c'est rapide. Ils expliquent que les informations, une fois qu'elles sont connues, vendues, etc., parce que ouais, en gros, on va rencontrer d'autres parties avec lesquelles on va peut-être pouvoir négocier. Moi, je sais ça, toi, tu sais peut-être des trucs, on peut peut-être s'échanger des infos, vous n'êtes pas les seuls à enquêter, quoi, en gros, quand vous êtes TPJ. Et ils expliquent qu'au bout de 4 jours, en gros, ça termine plus ou moins dans la rumeur générale ou le savoir public. Donc, quand vous avez une info, vous avez un avantage pendant un temps un peu déterminé. C'est supposé aider à rythmer l'enquête, voilà, je présume. Et puis, voilà, ils donnent des idées de où peuvent se trouver les informations. Donc, quand on n'a pas d'idée, il y a une table D66 de la même façon pour générer soi-même des endroits où vont se situer les lieux. Si tu joues pas le bouquin ouvert sur les genoux que tu as envie de préparer, c'est sûrement pas mal, mais honnêtement, ça peut tout à fait se jouer le bouquin ouvert sur les genoux. Hein, à partir du moment, vous avez l'habitude de mener des bacs à sable et d'être pas dans la réaction de ce que font les joueurs. Après, pareil, c'est à droite au but, donc ça vous donne des investigateurs, ça vous propose quelques prêts tirés qui peuvent être intéressants, qui peuvent donc bosser ensemble pour le compte de quelqu'un ou pas, qui peuvent aussi, pourquoi pas, se tirer dans les pattes à la fin. C'est sympa, c'est assez simple, on présente un peu le personnage en question sur un petit paragraphe, on donne des détails rapides sur comment il se comporte, on peut tirer au dé un des aspects, entre guillemets, du perso. Voilà, c'est assez rapide, donc on se retrouve vite avec des prêts tirés qui peuvent tout à fait être des PNJ, en fait. Ils sont marrants, en fait, c'est Troïka, quoi, c'est barré. Du genre, il y a un homme crocodile qui a pas trop de sentiments, qui est accompagné par 4 orques qui sont ses potes, mais lui, il les aime pas, il se sert d'eux. À côté, t'as un cochon détective privé qui écrit... qui note tous ces indices sous la forme de move d'échec. Enfin bref, voilà quoi, c'est des trucs vraiment très 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 typés. Et c'est toujours n'importe quoi. Il y en a un, il est pris par un prophète, pour un prophète, par plusieurs personnes, mais on comprend quand même à demi-mot que c'est plus ou moins un escroc. Donc si un PJ choisit ce gars-là, bah, il va être entouré de ses 4 serviteurs qui vont donner pareil des indications pour les jouer. Enfin, c'est barré, quoi. Du genre, si un PNJ lui parle, les 4 dévots vont insister pour suivre le protocole quand même, on parle quand même à un prophète. Bref, c'est spécial, quoi, c'est Troïka. Faut aimer ce délire-là, où on peut jouer une tortue, aussi une tortue avec une armure, qui elle note ses indices sous forme de petites prières qu'elle cache, Dieu sait comment, vu comment se plient ses pattes, à l'intérieur de son armure. Voilà, bref. Au départ, donc, on a des agents, s'ils meurent, on peut en générer d'autres. Et ces agents, c'est pas forcément, je disais, ça peut être des PJ prétirés, mais ça peut être des gens qui vont intervenir, puisque régulièrement, en fait, la campagne va proposer de croiser d'autres types qui enquêtent. C'est pareil, ça va aller dans le sens de la dynamique qu'essaie de te donner la campagne, à savoir, vous n'êtes pas les seuls à enquêter, et vous allez pouvoir croiser des gens qui ont des indices, qui en cherchent aussi, qui ont d'autres buts que les vôtres. À chaque fois, les PJ, là, enfin, les prétirants en question potentiels, ils ont des buts qui peuvent tout à fait, donc si vous les PNJisez, bah, être, enfin, créer des petites embrouilles avec les PJ, etc. Voilà. En quelques pages, on a de quoi avoir des agents solides et puis quelques PNJ. C'est, bon, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, on a les factions. Donc, bah, c'est pareil, elles sont toutes décrites d'une façon assez simple. C'est toujours sur deux pages. Merci Gavin Norman, je crois, qui a popularisé ça. Du coup, typiquement, là, j'ai les... je sais pas traduire. Young Guardian of House of Law. Bon, bref, les juristes. Donc, eux, on en a marre des gens qui s'entretuent pour cette histoire de verre et qui cherchent absolument bah, à trouver des coupables pour les faire s'affronter dans une arène afin que bah, les perdants soient donc prononcés coupables définitivement. Voilà, on est toujours dans trois cas. Et du coup, voilà, donc t'as un petit paragraphe ou deux qui t'explique la faction. T'as quelques skills de leurs agents en général et aussi à combien ils apparaissent, t'as un nombre de dés pour... Si tu as des paramilitaires paralégaux qui arrivent pour te choper, bah, tu vas acheter 3D6 et il y en aura 3D6 qui vont arriver sur toi. Tu as de quoi donner une couleur à ces gens-là au moment de la scène avec une petite table de 6. Tu as les buts généraux de la faction, leur méthode, donc leur façon d'agir en tant que faction, et puis bah, les avantages à bosser avec eux, à bosser pour eux, puisque comme je disais au début, vos PJ, il y a des chances qu'à un moment ils traitent avec ces factions, voire qu'ils se fassent embaucher par elles en tant que privé. C'est une des amorces du bac à sable. Et donc voilà, il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Il y en a 1, 2, 3, je sais plus. 4, 5, hop, 6, 7, 8. 8 factions. 8 factions qui ont des buts différents qui peuvent se tirer dans les pattes, typiquement les guildes des assassins, donc les types qui sont recrutés pour aller tuer des gens qui auraient menti et qui auraient fait que des individus aient mal placé leur argent à dessein. Bah, tu vois, il y a une guilde d'assassins, elle a intérêt à créer une forme de paix entre les guildes d'assassins pour qu'ils aient toujours des agents et tout, mais qu'on n'arrête pas les assassinats pour autant. Donc eux, ils veulent pas qu'on découvre la vérité. Ils veulent que ça reste un état de fait pour profiter, etc. Donc voilà, tout est un peu barré comme ça, tout est comme, enfin, chaque faction est relativement bien travaillée, en fait. C'est sympa. J'essaie de ne pas révéler le pot aux roses, hein, de qui a fait quoi et tout. C'est pour ça que je suis peut-être un peu trop général quand j'en parle, mais en même temps, on n'a que 20 minutes, j'essaye de faire vite aussi. Mais voilà, à chaque fois, en fait, c'est pareil. Donc on pourrait dire qu'on a peu devant les mains, puisque je disais deux petits paragraphes, quelques bullet points pour les buts, les méthodes et les avantages, et la petite table. Au D6, de comment, dans quel état d'esprit est la faction quand tu la rencontres un peu à n'importe quel moment. Mais en fait, c'est, enfin, il y a vraiment l'essentiel et je trouve ça simple à prendre en main. Je maintiens qu'il faut quand même avoir une petite, peut-être une petite appétence pour les bacs à sable. Mais il n'y a pas de fioritures, quoi. Il n'y a pas de trucs qui sont là pour illustrer, alors que pourtant, bah, tiens, pour retomber dans le travers. Que révélait Algol sur Impossible Landscape, toutes les images et tout, c'est pareil, c'est fait pour te créer une petite émotion esthétique, et c'est, je disais, bien barré, donc voilà, mais il n'y a rien qui, enfin, tout est utilisable, je trouve que tout est actionnable, en fait, c'est ça. Sauf peut-être, voilà, dans les lieux, donc la partie 4, c'est les lieux, donc on vous montre le bout de la ville de Troïka concernée, vous y déplacez, avec des espèces de petites gondoles dans l'air et tout. C'est toujours un peu chelou, Troïka, de toute façon. Vous avez, enfin, je vais vous photographier la carte, ça va être aussi simple d'ailleurs. Attendez, je suis mauvais. Avec mon téléphone, comme à l'accoutumée. Voilà la carte. Donc déjà, bon, normalement, quand tu la vois, tu te dis, ah ouais, ça va être chelou. Hop. Voilà. Et du coup, bah voilà, il y a plusieurs lieux, donc c'est pareil, c'est Troïka, c'est barré. Et en fait, ce qui va être sympa, c'est qu'il y a pas mal de lieux, justement, enfin de location, voilà, lieux, où dedans, on va pouvoir aussi faire des sous-intrigues ou quoi. Donc je trouve que la campagne, elle a une double possibilité de durée de vie. On peut se focaliser vraiment que sur l'enquête et tout, et peut-être passer ces détails-là à l'intérieur des choses, aller vite. Mais on peut aussi se prendre au jeu des factions dans les lieux. Donc, typiquement, là, on a le manoir d'une famille. Il y a les employés qui sont coincés en fait à l'intérieur, qui sont un petit peu en bisbille avec les animaux de compagnie où en fait il y a un chat qui s'est mis à bouffer des médicaments et puis il a commencé à devenir intelligent lentement et il s'est mis à voler ses médocs et à les faire bouffer aux autres animaux de l'énorme manoir de cette famille. Du coup, les animaux, voilà, en fait, en gros, ils veulent sortir pour rejoindre le zoo. Il y a donc ils sont en mauvais termes avec les domestiques qui sont là. Les propriétaires du manoir sont partis pour une raison que je ne dis pas. Et du coup, ils sont coincés là parce qu'en fait, ils ont des automates de sécurité. Et les automates ont reçu un ordre. On n'a pas le droit d'entrer ou de sortir sans la permission de la famille en question. Et donc, les automates, ils sont bêtes et méchants. Et donc, ils empêchent tout le monde de sortir. Donc, toi, t'as intérêt à rentrer dedans pour aller trouver des indices sur ton enquête. Mais tu peux aussi te prendre, enfin, tu vois, tu vas pouvoir jouer ce jeu entre les domestiques, les animaux et puis ces automates un peu tyrans, malgré eux. Enfin, parce qu'en gros, l'ordre a été très mal formulé. Et voilà, tu as un potentiel de jeu dans plusieurs zones comme ça, en fait. Bon, faut aimer parce que ça reste n'importe quoi. Je maintiens, Troïka, c'est pareil, quoi. Mais voilà, tu as plusieurs trucs comme ça et puis tu as vraiment pas mal de lieux. T'as des gens, alors ça va rejoindre les factions, mais typiquement, tu as le vaisseau de gens qui avaient. C'était un équipage un peu en orbite de Troïka. Le patron avait beaucoup investi dans ses verres, enfin dans ses œufs de verre, et notamment le salaire de ses employés. Donc quand ils ont tout perdu, ils ont jeté le patron par-dessus bord, du coup. Et puis entre eux, ils se divisent sur la façon de devenir une équipe démocratique, je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. Et pourtant, ça reste avec des petites tables actionnables et tout. Ils ont des intérêts à aller voir en ville parce qu'ils veulent quand même retrouver leur pognon. Mais t'as de la couleur pour les jouer. Ce sera toujours un peu bizarre et tout. Mais c'est marrant. Et bien entendu, il y a d'autres gens qui cherchent à s'accaparer leur vaisseau, etc. Et à chaque fois, en fait, dans les lieux, tu vas avoir des intrications, des factions comme ça. Et si certains lieux sont trop grands, typiquement le manoir dont je parlais, il a 4 étages, chaque pièce est décrite et tout. Je trouve que ça fait un peu donjon pour rien. Donc, t'as peut-être une vingaine de pages comme ça que moi je retirerais. Mais dans l'ensemble, tu as ton terrain de jeu, il est là, il est quand même assez simplement accessible. Tu vas avoir de quoi rebondir. Tes gens, s'ils viennent là pour, enfin de loin, ils ont un pavé typiquement pareil, ils ont un hôtel qui est rigolo. Tu vois, il y a un hôtel, chaque étage, il a un thème, c'est les propriétaires qui veulent ça. Et genre au cinquième, par exemple, si le thème tombe, tu as des vampires qui vivent là. Et en fait, tous les jours, ils font une espèce d'un nain qui fait une fête pour, comment c'était quoi, pour revivre sa mort, enfin. Refaire un enterrement, puis quand le vampire est enterré, qu'il se relève, ils font tous la fête, c'est nawak. Et ici, tu as quand même moyen de parler à des gens, d'avoir des infos, tu as des investigateurs qui peuvent se pointer. Tu as ce qu'il faut en fait pour le faire, c'est marrant quoi. Tu as quelques tables de rencontre justement pour les lieux et tout. C'est pas mal foutu. Je ne sais pas si je vais en dire trop plus parce que après, je vais révéler des éléments de l'intrigue. Un truc qui est très flottante hein, d'ailleurs, parce qu'en vrai, tu peux t'en foutre de retrouver qui a fait quoi, tu peux chercher le pouvoir avec la banque, tu peux juste te dire que travailler pour les assassins, c'est pas mal, je sais pas quoi, donc effectivement, tu peux peut-être lancer ça dans une campagne, bon, je vois pas trop comment, mais pourquoi pas. T'as quand même le fin mot de l'histoire qui t'est donné, que tu peux twister comme tu veux, on s'en fout un peu. Voilà. Et puis à la fin, donc, t'as ce petit chart qui te permet de. Bah, d'avoir tous tes indices et de savoir où tes persos les ont trouvés, à qui ils les ont demandés pour t'y retrouver et suivre ton petit truc à mesure que tu dépiles la campagne, quoi. Voilà, je sais pas si j'ai grand chose à dire de plus. Il fait 100 quelque chose pages, mais comme je disais, c'est très aéré, il y a beaucoup de marge et tout. Limite, on aurait pu gagner du papier, mais en même temps, ce serait moins facile à lire. Donc je pense, moi, qu'ils ont fait des bons choix de transmission. Sauf peut-être, je disais, donc voilà, le manoir donjon, enfin, il n'y a pas trop d'intérêt. D'ailleurs, ils commencent par en faire un ou deux comme ça, puis après ça s'arrête vite. C'est marrant. Après, tu te demandes s'ils ne se sont pas posé la question en cours d'écriture, je sais pas trop. Même si, voilà, après, dans toutes les pièces, tu as des trucs marrants à voir, tu as des trucs avec lesquels interagir s'il se passe de l'action, justement, etc. Donc c'est pas non plus en pure perte, mais c'est juste un peu trop gros, quoi. Voilà, on va dire. En tout cas, trop gros pour moi. Je reviens à mes questions. Où sont mes questions? Où sont mes questions? Voilà, donc à qui en commanderez-vous l'acquisition? Bah, des gens qui ont envie d'un sandbox un peu barré, qui n'ont pas peur. Enfin, alors, ouais, si quand même. Le hardboiled, je ne sais pas si on l'attend vraiment, parce qu'hardboiled, c'est quand même un genre assez désespéré et tout. Et là, toute l'atmosphère, elle est franchement un peu loufoque, un peu grotesque, un peu absurde. Et j'ai l'impression que là-dessus, ouais. En gros, il voulait dire on va enquêter, ça va être un peu trashouille, mais voilà quoi. Je pense que là-dessus, c'est pas très très, c'est pas vraiment ce que le Kickstarter promettait en tout cas. Et je sais pas si c'est un bon module d'intro aussi bien à Troïka qu'au JDR. Je sais pas si je commencerai par quelque chose d'aussi ouf. Faut voir avec qui, mais je suis pas certain que ça corresponde à tout le monde. Et donc voilà, qui je leur recommanderais, bah vraiment des gens qui ont envie de jouer dans ce contexte-là qui est quand même c'est loufoque, etc. Faut avoir envie de jouer dedans. Par contre, après, voilà, le sandbox, je trouve assez bien transmis. Donc si vous n'avez pas peur d'un truc assez what the fuck, très coloré, très, très psychédélique même, c'est du bon matos et bon, je ne vous dirais pas d'acquérir la version physique, c'est encore une fois c'est peut-être cher avec les frais de port et tout. Mais le PDF, il fait le taf et ouais, pour 15 pounds, donc je sais pas, 20 euros, un truc comme ça. Mais en vrai, c'est. Enfin, moi, ça me semble valoir son prix en tout cas. Si tant est qu'on cherche ça, sachant que je maintiens, pareil, on peut se focus beaucoup sur la partie enquête, mais on peut aussi tout à fait y aller très très drama aussi dedans, c'est marrant. Enfin, je trouve que ouais, c'est condensé, mais c'est ouais, dans condensé, il y a dense, là, c'est bien ça. Parce que je m'en suis servi, en fait, je l'ai déjà mené une fois, j'aimerais bien la remener, parce qu'en vrai, moi je me suis pas servi de tout du tout, quoi. Bon, après, voilà, moi c'est un style de jeu que j'aime bien. C'est ça, c'est aussi un style de jeu que j'aime bien. Donc, voilà. Voilà, je ne sais pas trop quoi ajouter. J'espère que je n'ai pas été trop, trop long. Est-ce que vous avez des questions?
Tu dis que c'est pas un bon point d'entrée pour Troïka parce que c'est un peu barré. Enfin, c'est beaucoup barré.
Non, alors, pardon, pour Troïka, c'est pas parce que c'est barré, c'est parce que c'est pas vraiment la proposition initiale du jeu. Le côté enquête et machin, je trouve que c'est pas vraiment ce que te vend le jeu au départ.
Ok, voilà. Oui, mais enfin, Troïka est un jeu qui, quand tu le lis, tu fais mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, c'est justement c'est le côté bordel qui transcende le jeu, en fait.
Oui, mais comment, c'est très très orienté quand même enquête pseudo-urbaine dans le gros bordel, effectivement. Et je sais pas si c'est, quand tu, ouais, comme tu dis, quand tu as le bouquin entre les mains, tu te demandes un peu c'est quoi. Oui, peut-être pour Troïka, ça le ferait. Pour le jeu de rôle, franchement, je suis pas certain, par contre.
Ah, mais quand t'es habitué à Cthulhu, ça te permet peut-être de dire ok, maintenant on va continuer à faire de l'enquête, mais maintenant vous allez
se faire
perdre de la santé mentale.
Peut-être. Non, ouais.
Et. Tu recommanderais ça à des. Enfin, quand. Moi, j'ai jamais testé Troïka, je l'ai lu, mais ça me donne l'impression que tu as un côté loufoque quasi permanent, totalement décalé de la réalité, et que tes parties risquent de vite virer à un côté un peu toonesque, genre plus c'est gros, plus ça passe.
Ah, toonesque, ouais, mais des fois, ça peut quand même être sacrément crado. La violence, elle est violente quand elle est là, c'est-à-dire que quand. Comment dire, quand tu te prends un coup, tu vas crever, quoi, en gros. Hein. C'est assez clair là-dessus. Et même si c'est loufoque et tout, bah, il y a quand même des. Je parlais de gens qui s'entretuent, d'assassins, de types qui sont prêts à aller se cogner pour savoir la vérité, ce genre de choses. Ouais, je suis désolé, je n'ai pas très bien écrit. Mais à l'intérieur des factions, elles ont toutes des buts, elles peuvent utiliser des moyens assez violents. Donc, t'es entre le loufoque. Effectivement, ça peut devenir quand même toonesque parce que. Enfin, les personnages, c'est n'importe quoi, quoi. Le chien aux jambes de 2 mètres de haut, des trucs. Enfin, quand tu le lis, tu te demandes un petit peu comment tu vas transmettre ça, mais au fond, c'est pas. Enfin, c'est du décorum, quoi. Mais ça reste quand même. Il y a des côtés dérangeants, toujours, je trouve. Parce que, mine de rien, il y a une utilisation de la violence dans le jeu. Pour que certaines factions parviennent à leur fin et tout. Après, t'es pas obligé de mettre les potards à 11 sur le crado, hein, on est bien d'accord.
Ouais, justement, c'est un jeu, enfin, c'est Troika, c'est un jeu un peu fourre-tout nawak. Et là, il propose un scénario d'enquête. Mais généralement, quand tu fais des enquêtes, tu te raccroches à une logique, à la réalité, tu suis des pistes. Ben, tu vois, tu as une question de.
Tu as des pistes, tu as des gens qui ont fait des trucs, tu as des indices, comment tu les trouves. Soit tu explores les lieux, soit tu parles à des gens. Et tu auras toujours des PNJ qui savent des trucs, des choses à voir. Tu as de quoi générer tes indices rapidement quand tes PJ vont quelque part si tu n'as pas à penser. Je disais, tu peux jouer avec le truc sur les genoux, je maintiens sans souci, quoi.
Mais alors, comment tu trouves le mobile? Parce que justement, tout est tellement barré. Enfin, tu vois, pour l'enquête, tu as besoin de comprendre qui a fait quoi, le Woodunit, mais tu as besoin aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait. Et dans un monde où, réalité est quelque chose de très, très subjectif.
Effectivement. En fait, t'as quand même un point d'ancrage qui t'est donné, à savoir, c'est une grosse arnaque de spéculation. Il y a bien des gens qui se sont enrichis avec, qui sont partis avec un pactole, et il s'avère que les gens ont investi dans de la merde, quoi. Et donc, le mobile des gens, des auteurs du truc, bah, c'était de s'enrichir. Malheureusement, ça a mis tout un tas de gens dans un gros caca et tout le monde va un peu les retrouver, déjà les identifier, ensuite les retrouver, et on file des possibilités de les identifier. Tu peux quand même suivre une enquête, ça va se passer un peu n'importe comment, mais tu auras quand même des indices ou des trucs qui vont te mener à ta cible, quoi. Je sais pas si je suis très clair.
Moi, tu
ou si je réponds bien à ta question.
Tu trouveras qui a fait le coup.
Oui, c'est ça. Et puis, ça peut être émergent. En vrai, on s'en fout un peu, tu vois. Voilà. Si permet.
Et la manière d'introduire les PJ là-dedans, genre, est-ce que le bouquin te dit OK, ce sont des enquêteurs et basta, ou est-ce qu'il te donne un peu plus de contexte pour faire pourquoi est-ce que c'est vous qui allez vous démener la couenne pour trouver le coupable?
Alors, il te propose, je te disais, que ce soit des enquêteurs ou des investisseurs qui ont perdu de l'argent. Mais en fait, tes PJ ne sont pas les seuls à enquêter du tout. Il y a d'autres gens qui enquêtent, que tu vas pouvoir rencontrer, je disais, avec qui tu vas pouvoir essayer d'échanger des indices. Peut-être, tu vois, si vous vous entendez bien, bon, ça peut être des arnaqueurs aussi, et tu peux essayer de les aider aussi, je me permets l'expression. Enfin, oui, le module, par contre, il suppose direct que tu viens là pour enquêter. Mais il te le dit, quand j'entends. C'est d'entrée de jeu le présupposé de pourquoi tu vas y jouer, quoi.
Donc okay, là-dessus, il te demande pas. La position du jeu.
Ouais, tout à fait, ouais.
Et donc, chacun se démerde pour trouver des vraies raisons pour être là.
Bah, se démerde. Par exemple, typiquement, tu peux partir des factions, tu vois. Les poser devant tes joueurs et dire je sais pas, il y en a une qui vous intéresse plus, enfin oui, effectivement, on se démerde, mais je trouve pas ça si dérangeant. À la limite, moi, enfin, il faut quand même que l'arbitre il ait lu le module, hein.
Ouais.
Mais ça se lit vite, mais j'entends une fois que tu l'as lu, tu peux commencer à faire des propositions facilement à tes PJ pour voir comment ils s'insèrent là-dedans, peut-être même s'ils veulent choisir un premier lieu d'enquête. En gros, je pense qu'avec une petite session zéro, il y a une crédibilité qui peut se poser facilement de la situation de départ de quand ils arrivent en ville, quoi, tu vois.
Ok, cool.
C'est mon avis après. Hein. Moi, j'ai bien aimé Impossible Landscape, alors tu vois, je.
Ouais. Ah ouais, ouais, effectivement,
c'est terrible, quoi. Voilà, c'est ça. on en parlera une autre fois. Non, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Déjà, est-ce que j'ai répondu à ta question, Gorgor? Et si on a d'autres questions?
Ouais, t'as répondu. Moi, j'ai plus de questions.
J'ai pas de questions.
On va pouvoir permettre à Algol d'aller dormir.
Non, mais juste, et t'arrives à faire des longues campagnes là-dessus? Ou enfin, combien de temps t'arrives à rester focus?
6-12 sessions. Tu parles de Troika, hein?
Bah,
ouais, mais après, c'est des joueurs qui aiment le drama. c'est pas forcément des sessions très longues, c'est 3 heures, tu vois. Il se passe des trucs. Ça dépend, mais ouais, 10-12, ça me semble. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Ça me semble pas. J'ai pas eu l'impression qu'on est tiré sur la corde, quoi. Je sais pas comment dire ça autrement.
Ok. Ouais, t'as pas tiré en longueur volontairement.
Non, bah, ça m'amuse pas trop de tirer en longueur. est-ce que j'ai répondu à ta question, Algol, ou pas trop?
Oui, bah oui. Ça... Oui, oui, absolument.
Ok. Ok, bah du coup, s'il n'y a pas de questions, les amis, je pense que on va pouvoir donc dire bonne nuit à Algol, dire au revoir à Craig, et puis je mets vite un frama pour la prochaine.
Ça roule. On était censé être 10 cette fois-ci et on était 3.
On était 3. Merci, la pression. mais au fait, mais je vous ai pas dit bonne année de vive voix. Bonne année, les amis.
Mais oui, bonne année. Bonne année.
hop, c'est salut Craig. Bien de se déguiser.
Ouais. Non, non, je t'assure. Happy Ball. George Happy Ball. Class, man. Top of the pop. A disparu. Poil au cul. Au large du port de Valparaiso. Ah, c'est beau. Mais tout ça nous éloigne de Georges. Moi, papa, doua, angoisse, fausse angoisse, j'ai plus de repères. Pour l'instant, wadoudadoudou.
Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
D'accord, d'accord, chaboutadoudi.
J'aime pas comme tu convies. Je sais pas, j'ai pas confiance. Hein.
Tais-toi, tu m'empêches de me concentrer.
Quand je serai célèbre, je me ferai des meufs. Je ferai des folies.
Steven, arrête-toi, c'est insupportable.
Tu sais, à propos de Steven,